Cube Radio.
C'est la nouvelle année pour les amateurs de football. La saison de la NFL débute cette semaine. La question qui est sur toutes les lèvres en ce début d'année, est-ce que l'équipe de Tom Brady répétera ses succès de l'an passé et même plus? Aussi, comment les Chiefs de Laurent Duvernay-Tardy rebondiront après avoir été très actifs pendant la saison morte? Et déjà un duel très attendu à la semaine 1. Deux jeunes carrières d'Alabama croiseront le fer en Nouvelle-Angleterre. Tout cela et bien plus dans cette nouvelle saison de la Zone payante. Bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième saison de la Zone payante. Et j'accueille aussi mes deux experts et journalistes au Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Salut les gars.
Salut.
Salut,
je vais vous retrouver. Yes.
Bon, écoutez, les gars,
je ne pouvais plus ce matin, les gars, là, je dois l'admettre. Là, j'avais vraiment hâte qu'on puisse parler de football.
Ouais, là, on va parler de football. C'est le retour de la saison de la NFL. On a eu la pré-saison, on a eu la saison morte, la signature des joueurs autonomes, le repêchage. Mais là, c'est la première fin de semaine de la saison régulière. Je pense que tout le monde qui nous écoute aussi sont très excités. On va, dans cette émission, passer au peigne fin toutes les équipes de la NFL. On va un peu parler de ce qui les attend cette année. On va aussi faire la prédiction de la semaine 1. On ne perd pas nos bonnes habitudes. On va aussi aller au bar. OK, les gars, pour commencer, quelques nouvelles, si vous voulez bien, dans la NFL. Avant de se lancer dans le portrait des équipes, il y a eu des changements au calendrier cette année pour les gens là, qui reprennent un peu le collier après avoir quitté au Super Bowl. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette saison dans le calendrier, Jean?
Ben écoute, c'est le premier changement au calendrier depuis 1978. Fait que écoute, moi c'est l'année que je suis né en plus, fait que je peux pas dire que je m'en rappelle. C'est pas compliqué. Il y a un match pré-saison de moins pour un match de saison régulière additionnel. Donc maintenant, c'est 17 parties dans la NFL étalées sur 18 semaines de football. Chaque club reçoit 10 parties à la maison, soit c'est 9 matchs de saison régulière et un match pré-saison, ou 8 de saison régulière et 2 matchs pré-saison. Dans le fond, le match qui est ajouté, c'est un match interconférence additionnel, tout simplement. Le début de la saison, ben, comme on le sait, commence le 9 septembre. Cette année, ça va finir le 9 janvier. La première fin de semaine en série, c'est le 15, 16, 17 janvier. Et le Super Bowl, messieurs, va être le Super Bowl le plus tard qui s'est jamais joué dans l'histoire de la NFL. Ça va être le 13 février 2022. Et surtout, surtout, le Pro Bowl est joué, le 6 février, est joué le 6 février, la semaine avant le Super Bowl.
Mais donc ça, Johnny, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que le Super Bowl est le 13 février. Il y a un maudit paquet de gars qui vont être maganés à Saint-Valentin.
Ouais, c'est possible, effectivement. Puis pour les playoffs, ben évidemment, c'est le même système qu'on a utilisé l'an dernier. Donc, 7 équipes par conférence. Puis évidemment, la première équipe de la conférence a un bail pour les séries.
Puis que ce soit clair, il n'y a pas 2 bails par équipe. On ajoute une semaine à tout le monde, mais il n'y a pas un bail additionnel. Donc, on a toujours un congé là, durant la saison par équipe.
Exact.
OK, bon ben, on va avoir une semaine de plus cette année pour se régaler avec la NFL. Mais est-ce que ce sera une saison normale, Steph? Est-ce que la COVID, qui va avoir dans le stade? Est-ce qu'on va sentir l'appui des fans pour les gens qui jouent à domicile cette année?
Évidemment qu'il fallait parler de COVID, on peut pas passer à côté. On va faire ça short and sweet en bon français parce que c'est pas de ça dont les gens ont envie d'entendre parler le plus. Mais oui, retour à la semi-normale, je te dirais, Jean-Nic. Pourquoi semi? Du côté des stades, on prévoit jouer dans les 32 marchés devant des stades remplis à pleine capacité. Est-ce que les fans vont être présents? Je pense que oui, là, après un an loin de la NFL, certainement qu'on va vouloir se présenter en personne. J'ai hâte de voir. Semi-normal quand même parce qu'il y a toujours des protocoles très stricts pour la COVID, pour la vaccination. D'ailleurs, les joueurs non vaccinés vont être lourdement pénalisés cette année. C'est-à-dire que comparé aux joueurs vaccinés qui ont un test par semaine, Eux, ils continuent avec le test quotidien. Il y a des amendes très, très salées aussi en cas de bris de protocole. Donc ça peut faire très mal à leur poche. Et évidemment que ça peut punir collectivement une équipe aussi, là, les joueurs non vaccinés, parce que un joueur non vacciné qui a la COVID va être obligé d'être en quarantaine pendant une dizaine de jours. Un joueur vacciné qui a la COVID n'a qu'à présenter 2 jours de suite un test négatif, puis il peut revenir en action. Donc, écoute, tu comprends qu'une équipe qui a plusieurs joueurs non vaccinés, ça peut devenir problématique. On peut même aller jusqu'à donner une défaite par forfait à une équipe qui présente une éclosion avec des joueurs non vaccinés, là. Donc, c'est un pensez-y bien, mais à ce stade-ci, moi, j'ai pour dire que les joueurs non vaccinés ne se feront pas plus vacciner, peu importe les tapes des doigts, les coups de marteau, les incitatifs qu'on va leur mettre. À ce stade-ci, ça va être très, très difficile d'aller plus loin avec eux.
Est-ce qu'on comprend, par contre, c'est une très faible minorité maintenant? Il y a des équipes qui sont vaccinées à 100%.
On est rendu à un taux de vaccination global parmi les joueurs de 93% et parmi les entraîneurs et membres du personnel des équipes à 99%. Donc, comme tel, ça devrait pas être un problème majeur, mais tu sais, ça varie d'une équipe à l'autre. Donc, si tu prends une équipe, là, je sais que Buffalo avait des problèmes à ce niveau-là, entre autres là, l'adhésion des joueurs au vaccin, ça peut devenir problématique à un moment donné durant la saison si le fameux variant Delta frappe fort. Là. Mais il reste que le taux de vaccination, pour l'instant, ça dépasse l'objectif de 85% que s'était fixé la NFL.
Est-ce que le variant Delta se présentera à Buffalo? Ça, c'est une autre idée. Ça, peut-être plus à New York qu'à Las Vegas, mais... Peut-être qu'à Buffalo, il s'ennuierait un peu. OK, les gars, on va
Il faudra qu'ils combattent l'alcool à Buffalo avant de pouvoir atteindre les gens.
OK, hey, les gars, on se laisse pour une pause et ensuite, on va passer au peigne fin les 32 équipes de la NFL avec du pire au meilleur. Restez là. On est de retour à la zone payante. John Colagagné avec vous en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. Là, les gars, on va faire un exercice très important pour les fans de football. On va passer toutes les équipes au peigne fin pour savoir quels seront leurs résultats ou en tout cas espérer comme résultat cette année. Mais sur papier, on peut déjà prédire certains résultats ou en tout cas certaines places de classement. Je me suis lancé dans ce difficile exercice et peut-être que vous serez pas d'accord, peut-être que vous le serez, mais on y va les gars, on commence par un premier essai. Et là, je vous présente les 5 équipes qui, d'après moi, vont lutter pour le premier choix au repêchage. Parlons-en, on parle de Houston, Détroit, Jacksonville, les Jets de New York et les Eagles de Philadelphie. Commençons, si vous voulez bien, par Houston. Rapidement, qu'est-ce qui est arrivé cette année et qu'est-ce que vous attendez de cette équipe pour 2021?
Ben, la première des choses, moi, je te dirais que quand on s'était quitté, j'avais dit que la saga de Sean Watson ne serait pas réglée durant l'été. Ben, non seulement elle n'est pas réglée, mais elle n'est pas réglée là présentement. On n'a aucune idée de ce qui va se passer avec Watson et ses 20 plaignantes et plus au niveau judiciaire. Donc, évidemment, là, ça force la main à Houston d'utiliser la bonne vieille carte de sécurité là, du côté du corps arrière, Tyrod Taylor.
Ce qu'on sait, c'est qu'il ne jouera plus à Houston. C'est de plus en plus évident.
Exact, exact. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Pour le reste, je sais que les Dolphins, ça a l'air, sont très agressifs pour essayer d'acquérir là, les services de Watson. Mais c'est une équipe qui est triste, tout simplement. Là, il n'y a plus de vedettes. Parce qu'évidemment, J.J. Watt est parti là avec les Cards d'Arizona. C'est pas l'arrivée de Mark Ingram, Philip Lindsay, Anthony Miller qui va changer grand-chose à l'équipe. La seule belle addition que j'ai trouvée, c'était Shaq Lawson, un joueur défensif. Mais je veux dire, ça risque d'être Fort pénible pour lui.
Encore plus triste que ça, tu trouves que c'est la seule addition intéressante, puis ils l'ont libéré à la fin du camp.
Ouais, exact.
Fait que là, ça commence à faire pitié comme alignement, honnêtement. C'est triste de voir ça aller, c'est en décrépitude.
Détroit, Steph, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, Détroit, le gros geste qu'ils ont posé, c'est évidemment d'échanger Matthew Stafford, d'aller chercher Jared Goff. Donc, pour accepter le contrat de Jared Goff, qui était faramineux, on a aussi donné aux Lions des choix au repêchage élevés. Donc, eux autres, ils misent clairement sur le futur. Jared Goff, tu sais, c'est pas un mauvais corps arrière, mais je pense qu'on peut convenir ensemble, les gars, que tu descends d'un bon cran là par rapport à Matthew Stafford. Non seulement ça, mais t'as plus personne à qui lancer le ballon à Détroit. Là. C'est épouvantable comment on l'aide pas dans sa quête de redevenir un corps arrière de premier plan. Il y a pas de bon receveur là. La ligne offensive va être très, très fragile. Défensivement, on a vu à quel point c'était désastreux l'an passé. Il n'y a pas nécessairement des gestes importants qui ont été posés pour améliorer cette défensive-là. Donc, je les vois là, très bien dans la compétition avec Houston là, comme... pas mal parmi, moi, je dirais, les deux pires équipes, selon moi, c'est pas mal Détroit et Houston.
Un nouvel entraîneur qui pourrait donner un peu
L'entraîneur, encore là, c'était un choix, moi, qui me revient pas, là. Dan Campbell, un gars qui semble être sorti tout droit des années 50. Je sais pas quoi penser de cette addition-là. Tu sais, c'est un motivateur, là, un gueulard, quelqu'un qui pousse ses troupes de cette façon-là. Je sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne avec les jeunes joueurs d'aujourd'hui. J'ai vraiment pas confiance en ce qui se passe à Détroit. Là. Ils pourraient me faire mentir, mais je vois pas comment ils peuvent se sortir de leur marasme.
La seule chose positive, c'est peut-être le plaqueur Penny Sewell qu'ils ont ramassé. C'est un bon choix au pêchage. Fait que c'est un peu comme dans les Browns des années 90 ou 2000, là, je dirais 2010. Le seul point positif, c'était de regarder Joe Thomas. Ça se peut que ce soit la même chose pour les fans qui vont regarder Penny Sewell.
Je leur souhaite, mais Sewell, il a connu des matchs pré-saison très difficiles. Ça veut rien dire des fois, là. Il faut pas s'emballer avec ça. Je pense pas qu'il faut mettre une croix sur son avenir puis le déclarer comme un boss, là. Ça, des fois, c'est très hâtif comme conclusion, là. Mais, n'empêche que ça a été, très, très laborieux pour lui jusqu'à maintenant.
OK, Jean Jacksonville. Avec Trevor Lawrence, est-ce que ça va être suffisant pour les sortir du bottom five?
Non, pas à mon avis. Je pense que ça va prendre encore du temps. Il y a beaucoup de trous dans l'alignement. Ils ont quand même fait quelques acquisitions positives. Là, Marvin Jones, Shaquille Griffin, Rashawn Jenkins, ça fait du bien. Par contre, le plan d'Urban Meyer est un peu tombé à l'eau parce que j'ai l'impression qu'il voulait utiliser Travis Etienne, le porteur de ballon de Clemson, un peu à toutes les sauces.
Ouais.
Puis là, évidemment, sa blessure a fait mal. Fait que, tu sais, c'est ton premier choix au pêchage qui vient de tomber à l'eau un petit peu. Ça t'enlève un outil important en attaque. Je pense que Trevor Lawrence va montrer des belles choses, mais ça va être insuffisant là, avec les Jaguars. Mais il y a quand même du positif. Ça reste que, tu sais, ils ont le premier choix. C'est la première fois depuis fort longtemps que les fans ont quelque chose à se mettre sous la dent puis ils ont hâte de le voir jouer, Trevor Lawrence. Donc, moi, il y a du positif, mais ça va être quand même difficile. Je vois difficilement comment il pourrait aller au-dessus de 4 ou 5 victoires. Là.
Jets de New York, une autre équipe qui a repêché un corps arrière très tôt, Zach Wilson, qui a, somme toute, été correct en pré-saison. Steph, est-ce que c'est suffisant pour les sortir, eux aussi, d'une course au premier choix repêchage?
Je pense qu'ils vont être un petit peu mieux que ça là, cette année. Je te parle pas d'une équipe de série. Là. Ils cogneront même pas à porte. Mais c'est une équipe que je vois remporter, là, je sais pas, là, peut-être 5-6 victoires. T'sais, c'est pas assez pour être le premier choix au total. Ben, c'est-à-dire c'est trop de victoires pour être le premier choix au total. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de Zach Wilson en match préparatoire. Honnêtement, il a semblé décisif. Il a développé une très belle chimie avec le nouveau venu, là, le receveur Corey Davis, qui était anciennement des Titans. Donc ça peut être intéressant à surveiller. Puis j'ai hâte de le voir en action avec la recrue Elijah Moore, un choix de deuxième ronde, si je ne me trompe pas, qui était excellent à l'université à l'intérieur. Tu sais, un fameux slot receiver là, qui évolue comme ailier inséré, pourrait là, faire beaucoup de dégâts de ce côté-là. Donc, une attaque qui a un peu plus d'armes que par le passé. Il faut que ça colle là, à New York, parce qu'écoute, Wilson, là, c'est le sixième corps arrière que l'équipe a choisi dans les deux premières rondes du repêchage au cours des 15 dernières années. C'est énorme, énorme. T'sais, on n'a pas idée. C'est normal de prendre des corps arrière de développement en 4, 5, 6e ronde à un moment donné pour voir ce que t'as, puis appuyer ton corps arrière partant. Mais quand tu repêches dans les deux premières rondes, sans cesse comme ça, puis que ça colle jamais, à un moment donné, ça laisse des traces dans la psychologie collective de l'équipe. Donc là, faut que ça débloque avec Wilson. Il a montré des signes encourageants. Ce qui est dommage dans leur cas, il avait signé l'ailier défensif Carl Lawson des Bengals, un excellent joueur pour appliquer la pression. Il n'y a pas toujours le nombre de sacs là, qui nous fait faire « wow, ce gars-là, c'est un monstre ». Mais il applique constamment la pression. Là, quand tu regardais les fameuses notes de Pro Football Focus, il était toujours parmi les meilleurs à sa position à ce niveau-là. Il s'est blessé, rate la saison. Ça, c'est une grosse perte pour l'équipe. Faudra le revoir en 2022.
Hey, Jean, comment qu'une équipe avec trois quarts arrière comme les Eagles de Philadelphie ont aussi peu d'espoir de faire les séries encore cette année?
Ben moi, c'est là que je suis pas d'accord, parce que les Eagles, pour moi, ne font pas partie du bottom five, Jean-Nic.
Oh!
Non, moi j'aurais pris facilement les Bengals de Cincinnati et je t'aurais mis ça là-dedans. D'accord, ok. Mais on peut faire les Eagles tout de suite. Ben première des choses, pour moi le carrière, selon moi, va avoir une bonne saison. Jalen Hurts, ça reste qu'ils sont dans une division une des plus faibles de la NFL. Donc pour moi, être éliminé aussitôt, ça n'a pas de bon sens quand tu prends en considération la division dans laquelle ils sont. Ils ont quand même eu deux bonnes, je trouve, acquisitions, Tevin Nelson, Anthony Harris, pour un peu solidifier la tertiaire qui est problématique avec les Eagles. On va voir à quel point ils vont avoir un impact, puis est-ce que la tertiaire va être en mesure d'être un peu moins généreuse envers les attaques aériennes adverses. On va voir. J'aime Devontae Smith, c'est un bon receveur, il va être explosif, il va faire des jeux. Jalen Reagor, il est très jeune, l'an passé il a eu un peu de difficultés. Je m'attends à une meilleure saison. Ils ont amené Kerryon Johnson pour appuyer aussi l'attaque terrestre. Moi, je déteste pas nécessairement ce que je vois des Eagles. Pour moi, c'est un club qui va batailler dans la division, la NFC, là, tout simplement.
Avec trois quarts arrière, tu considères que ils vont être sur le banc toute la saison si Jalen Hurts se blesse pas?
Ouais, Jalen Hurts, pour moi, va être le QB1 des Eagles toute la saison. Je suis pas stressé avec ça.
Intéressant. Maintenant, les gars, on passe au deuxième essai. On va passer aux équipes qui ont peu d'espoir. Il y en a, mais ils ont peu d'espoir de faire les séries, toujours d'après moi. Vous pourriez quand même m'ostiner. On va commencer avec ton équipe, justement, l'équipe dont tu mentionnais il y a quelques instants. Jean, Stéphane, les Bengals, est-ce qu'ils sortent, eux, du bottom five ou ils sont encore dans les pires équipes de la Ligue nationale?
Ben, tout va dépendre de l'état de santé de Joe Burrow. On se souvient de sa méga blessure au genou. Ça avait été dévastateur. Tu sais, les Bengals, rappelez-vous d'une chose, on a tendance à l'oublier, là, mais lorsque Joe Burrow jouait cette année, l'année passée, c'est-à-dire à sa saison recrue, il perdait rarement des matchs par plus d'une possession. Il était toujours dans le coup, il était compétitif. Ça, c'est ce que tu veux voir d'une équipe avec un corps arrière recru qui n'a pas nécessairement un alignement à tout casser. C'était intéressant à ce niveau-là. Lors de 5 des 7 matchs suivants là, que Joe Burrow a raté, l'équipe a perdu par au moins 10 points. Ça veut dire qu'il faisait une grosse, grosse différence. Donc, est-ce qu'il revient en santé? Des fois, là, le fameux ligament croisé antérieur, c'est pas toujours évident l'année d'après le retour. C'est ça, moi, qui m'intrigue avec cette équipe-là. Tu sais, pour le reste, tu regardes, ils ont fait des additions intéressantes. Là. Riley Reiff, le bloqueur, c'est pas quelqu'un là, qui est au sommet de sa profession, on se fera pas d'accord. Mais il reste que la ligne offensive des Bengals était tellement j'ai pas de mots, abyssal dans sa performance. C'était épouvantable là, l'année passée. Puis les années d'avant aussi. Donc, t'amènes un gars comme Reef, ça améliore un peu les choses. Bon, ils ont été chercher Jamar Chase, le receveur recru, qui était le coéquipier de Burrow à LSU. C'est évident qu'ils peuvent développer une chimie rapidement. Reste que Chase, encore là, ça a été difficile en match pré-saison. Il a dit que Bob s'échappait. Mais là, les gens le crucifient. Écoute, c'est probablement le plus jeune joueur de la ligue. Là. Il est très jeune. Il a sauté une année l'an passé à cause de la COVID. Il y a un peu de rouille là-dedans. Je suis loin d'enterrer ce gars-là. Là. Donc, pour moi, les Bengals, c'est une équipe qui peut aller chercher 6-7 victoires, sont entre le fameux bottom five que tu parles et les équipes suivantes. Là, j'ai bien de la misère à les classer entre les deux, finalement.
Mais le point pour moi que les Bengals, c'est, ça risque d'être difficile, c'est dans l'AFC, pour moi, ils vont évoluer dans la division la plus compétitive.
Tout à fait.
C'est dur avec les Browns qui sont rendus solides, les Ravens, les Steelers.
Ça reste 6 matchs, moi, difficile à gagner. Là.
Exact, ouais. Exact.
C'est okay, bon les point. Giants, Jean, une autre équipe là, qui est à la tournée des chemins, là, si on considère que Daniel Jones, c'est son année de vérité.
Ouais, c'est l'année de vérité. Lui, il n'a pas le choix de performer cette année. Il a un peu plus d'outils, évidemment. Ils sont allés chercher Kenny Golladay. Défensivement, faut pas oublier que les Giants, l'an passé, en bon vieux terme de football, là, ils ballaient. Là. Tu sais, je veux dire, la défensive des Giants, l'an passé, elle a été très, très solide. Donc, si tu amènes le même genre de défensive avec... je dirais une attaque beaucoup plus potable, qui évite les revirements surtout, et peut-être aussi le retour en forme de Saquon Barkley. Faut pas oublier, c'est un talent exceptionnel. Il a pas prouvé rien encore, mais s'il y a une bonne saison, les Giants pourraient revenir dans le mix là, facilement. Moi, je m'attends à une bonne saison des Giants, honnêtement, puis j'ai pas détesté certaines acquisitions, dont Danny Shelton, qui va solidifier un peu l'intérieur de la défensive. Moi, je m'attends à une bonne saison, puis on va voir. C'est pas compliqué. Les Giants, pour moi, c'est vraiment Daniel Jones qui va décider où est-ce que le club s'en va. Si c'est encore le Daniel Jones qui fait encore des revirements dans des moments clés d'un match, les Giants vont avoir une saison un peu comme l'an passé, donc un peu en bas de 500. Si Daniel Jones est nettement plus solide au poste de carrière, c'est un club qui peut vraiment aspirer à faire les séries.
Donc, autrement dit, toi, tu mises sur lui. Tu penses qu'il va connaître une bonne saison puisque tu parles d'une bonne saison des Giants.
Oui, exact. Je pense qu'il est dû. Puis, c'est ça. On verra. C'est quand même beaucoup demandé. Des fois, on s'imagine un carrière qui fait beaucoup de revirements puis que du jour au lendemain, t'es supposé plus beaucoup en faire. On va voir, mais moi, j'ai l'impression qu'il a pris de la maturité, mais surtout, il est mieux entouré aussi.
Il y a un point qu'il faut parler juste avant de passer à l'autre équipe. Daniel Jones, je pense que les Giants ont fait la bonne affaire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on mise le tout pour le tout sur son développement cette année en allant lui chercher deux grosses armes.
Exact.
Kenny Golladay, là, tu sais, il a fait vraiment de bonnes choses à Détroit par le passé. Puis, t'ajoutes il a manqué beaucoup d'actions, là, au camp d'entraînement, le receveur recrue Kadarius Toney. Il y a eu la COVID, il a été à l'écart pour une blessure, il est arrivé toutes sortes d'affaires, tu sais, ça n'a pas été productif du tout jusqu'à maintenant. Mais c'est un receveur, là, rappelez-vous en Floride comment il était explosif dans la NCAA. C'est un vrai joueur de jeux vidéo, tu lui fais faire n'importe quoi avec ta manette, là. Ça ressemblait à ça Kadarius Toney sur le terrain. Donc, pour les Giants, c'est deux armes importantes qui s'ajoutent. Si ça fonctionne pas cette année avec Daniel Jones, tu peux finalement te dire, OK, on est peut-être mieux de tirer à la plug.
Les Falcons, depuis leur voyage au Super Bowl, on dirait qu'il n'y a plus rien qui va. Julio Jones qui est parti, Matt Ryan qui vieillit. Est-ce qu'ils ont de l'espoir de se retrouver encore dans le mix pour une place dans les séries cette année, Jean? Ou Steph, ouais, on est rendu à Steph. Vas-y, Steph.
Hey, c'est comme une équipe, je sais pas, on dirait qu'ils ont subi une commotion au troisième quart de ce Super Bowl-là, puis que les effets se font encore sentir. Là. Et ça lève pas. Je suis intrigué quand même par cette équipe-là. Pourquoi? Moi, c'est le choix de leur entraîneur, Arthur Smith, que j'aime. Moi, je trouve qu'il a fait de l'excellent travail au Tennessee comme coordonnateur à l'attaque. Écoute, c'est carrément lui qui a ressuscité Ryan Tannehill. C'est lui qui a enfin compris que là-bas, tout passait par le porteur de ballon, Derrick Henry. Tu sais, il l'a fait courir, courir et courir encore. Le problème à Atlanta, c'est que si tu veux miser sur la même formule, ton cheval, c'est Mike Davis dans le champ arrière. T'sais, j'ai rien contre Mike Davis. C'est un porteur adéquat. On l'a vu l'an passé en relève. Il était en Caroline quand Christian McCaffrey s'est blessé. Il a fait du boulot honnête. Mais c'est pas un porteur de ballon là, du calibre de Derrick Henry. T'es même pas proche. T'es à des kilomètres à la ronde là, de lui. Donc, va falloir forcément qu'il apporte une autre mentalité offensive. Tout va passer par Matt Ryan, Calvin Ridley et le nouveau venu, un joueur très, très intéressant, le Kyle Pitts, l'ailier rapproché. Il évolue sur papier à la position d'ailier rapproché, mais si c'est comme il était sur la scène universitaire en Floride, il va être aligné partout sur le terrain. Tu sais, c'est un joueur à tout faire. C'est difficile traditionnellement pour les ailiers rapprochés recrues Mais s'il y en a un là, qui peut vraiment changer la donne, je pense que c'est lui. Donc ça, ça va être intéressant. Là où ça me fait peur, les Falcons, puis où je vois pas d'amélioration vraiment, là, c'est en défensive. Là. T'sais, c'est vraiment une équipe qui a été pitoyable l'an passé. Écoute, ils ont terminé au 29e rang pour le nombre de points accordés. Puis tu t'en vas à guerre avec une formation qui est à peu près similaire, qui a pas d'ajouts majeurs qui ont été faits. Donc, pour cette raison-là, je vois pas les Falcons comme une équipe très améliorée par rapport à l'an passé.
Les Panthers, avec un nouveau corps arrière avec qui on a, pour qui on a jeté l'éponge à New York, est-ce qu'il va relancer sa carrière en Caroline, Jean?
C'est une bonne question. J'espère pour lui qu'il a laissé les fantômes à New York. mais écoute, les Panthers ont l'air de vraiment apprécier ce qu'il fait.
On parle de Sam Darnold, évidemment.
Ouais, de Sam Darnold, effectivement. est-ce que c'est le retour de CMC aussi, là? Faut pas oublier que c'est probablement le porteur le plus complet de la NFL.
Le meilleur ami du corps arrière.
Ah, absolument. Ça va absolument dynamiser l'attaque. Puis je pense qu'il aime beaucoup aussi. Ça se peut qu'il y ait un petit peu moins de portée CMC cette année parce que là j'ai un blâme, c'est le porteur canadien qui joue à Oklahoma State.
Chuba Hubbard.
Ouais, Chuba Hubbard, natif de Calgary. Je sais que les Panthers ils ont des très très bons mots sur lui. Donc s'il est en mesure peut-être d'enlever quelques portées à CMC, je pense que ça pourrait les aider parce que on l'a vu l'an passé aussi. Quand t'as toujours le ballon, à un moment donné, ça se peut que tu te blesses aussi. J'ai pas aimé, par contre, moi, la perte de Curtis Samuel. Je trouve que c'était un joueur important pour eux autres. Ils ont repêché Terrace Swope-Marshall, qui vont peut-être espérer le remplacer dans le même genre de rôle que Samuel avait. Moi, je pense, je suis pas convaincu par ça. Défensivement, je pense qu'il y a encore des lacunes. C'est un club qui va, je pense, travailler fort. L'an passé, l'entraîneur-chef les a vraiment fait compétitionner à un niveau élevé pour le talent qu'il y avait. Mais je pense encore qu'il manque de quoi là en Caroline. Je m'attends à un club légèrement en bas de 500.
Les Raiders, on dirait qu'ils sont destinés à être dans cette catégorie d'équipes qui feront pas les séries, mais qui finiront pas dernier. Est-ce que c'est encore le cas cette année, Steph?
C'est assez bien présenté, oui, ça résume, parce que c'est sous John Gruden jusqu'à maintenant, ça fait quoi, 3 saisons qu'il est là. Il y a eu une amélioration à chaque année au niveau de l'affiche, mais c'est pas des améliorations importantes. T'sais, on parle de quelques victoires de plus. L'an passé, on était à quoi, 8-8, les Raiders. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel offensif. On l'a vu l'an dernier. Moi, ce que j'ai aimé des Raiders de 2020, c'est qu'enfin, on a fait sortir un peu Derek Carr de sa coquille en le forçant un peu plus à aller vers le long jeu. Il y avait une aversion un peu pour le risque là, comme corps arrière qui, tu sais, je trouvais que ça se permettait pas à l'attaque d'exploser réellement. Donc, de ce côté-là, il y a eu une amélioration. Par contre, on a laissé filer le receveur Nelson Agholor. Bon, c'est pas un dieu là, du stade là, non plus, mais c'est un gars qui a vraiment permis aux Raiders d'étirer le terrain là, l'an passé. Là, il est plus là. On a été chercher John Brown pour le remplacer, mais John Brown a demandé à la fin du camp d'être libéré. Donc, on a exaucé son souhait. Donc, il y a peut-être cette figure verticale-là qui manque à l'attaque par rapport au passé. Écoute, la ligne offensive aussi qui change beaucoup. Là. On a perdu des gros bonhommes là, qui pourraient affecter le niveau de l'attaque. Ça, c'est un point à surveiller. Puis défensivement, ben écoute, il y a des jeunes qui risquent de prendre un peu plus de place. On a ajouté Trevon Moehrig, le safety, qui pourrait là, donner un bon coup à la tertiaire. Il y a la recrue Nate Hobbs aussi, demi de coin, qui a eu des matchs préparatoires vraiment excellents. Donc, si la tertiaire des Raiders s'améliore avec des jeunes comme ça, c'est une équipe qui a quand même des armes, là, je trouve, pour compétitionner, puis peut-être même cogner à la porte des séries. Mais Jean, tantôt, tu parlais de la division Nord de l'AFC qui était forte. Je pense que ça va être le cas personnellement aussi avec l'Ouest. Là. Tu sais, t'as les Chiefs.
Les Chargers
en viennent, que je vois comme une équipe là, clairement améliorée. Puis les Broncos, qui sont toujours une équipe là, tu sais, qui se bat fièrement. Là, il y a une nouvelle situation au poste de corps. Donc, ça risque d'être difficile à cause de ça. Mais les Raiders, effectivement, je les vois un peu dans les mêmes eaux là, de 8-9 victoires, quelque chose comme ça. Est-ce que ce serait assez pour se qualifier pour les séries? je ne penserais pas dans la conférence américaine.
Les Bears, Jean, est-ce que les Bears ont une chance de... Premièrement, il va y avoir des questions sur le corps arrière.
Ben, exactement.
Un match.
Si tu me demandes s'ils ont-tu une chance de faire les séries avec un rouquin comme corps arrière avec Andy Dalton, la réponse pour moi, c'est non. Écoute, c'est Andy Dalton... pour moi, il est là pour prendre des coups que tu voulais pas faire nécessairement exposer ta jeune recrue qui est peut-être pas encore prête pour jouer dans la NFL. Andy Dalton, il est là pour être le bon vieux sac de pour les boxeurs, là, un sac
punching
de
punching bag.
Ouais, exact. C'est un punching bag. Il va être là. Mais pour moi, si tu fais commencer Andy Dalton, ben tu le fais jouer toute la saison.
Ah oui?
Oh ben, oui, toute la saison, tu t'embarques pas nécessairement.
Même c'est écrit dans le ciel qu'après deux défaites de suite, c'est Fields qui embarque.
C'est ce que je pense aussi qui va arriver, mais pour moi, si tu décides que Dalton, c'est ton carrière partant, parce que justement, Fields est jeune encore, mais surtout, il n'y a pas une ligne à l'attaque appropriée, ben tu l'envoies à boucherie pour vrai. Tu l'envoies à boucherie toute l'année. Puis tu concèdes un peu la saison. Puis l'an prochain, ben tu revampes un petit peu cette ligne à l'attaque-là. Puis avec un Justin Fields qui va être un an derrière Dalton, il va apprendre aussi de derrière Dalton, je suis convaincu.
Mais la raison pour laquelle ça arrivera pas, puis t'as raison sur le plan, Jean, mais c'est que t'as un entraîneur-chef en Matt Nagy puis un DG en Ryan Pace qui joue pour leur job cette année. Là.
Exact.
Puis moi, je vois mal dire, OK, c'est pas grave, on va souffrir avec Dalton, on va prendre notre temps, on va construire le jeune, on va l'amener à avoir confiance. C'est un super bon plan, pour vrai. Mais à cause de la situation précaire de ces deux gars-là, je pense qu'on ira pas vers ça.
Puis l'autre point aussi qu'il faut vraiment pas sous-estimer, c'est le fanbase des Bears.
Ouais.
Ils ont pas eu un bon carrière depuis 1950.
Il y en a qui parlent, hey, qu'est-ce que vous faites de Jim McMahon dans les années 80? Il était pas si bon que ça. C'est pas lui qui a traîné le club au Super Bowl. Oubliez ça.
Là. Exact, exact. Il y avait une pas pire défense de ce que je me souviens. Là.
Pas si mal.
Mais c'est ça, le fanbase va mettre énormément de pression, surtout si les Bears n'ont pas un bon début de saison. Le seul point positif que je vois, c'est le retour d'Allen Robinson. Ça, c'est quand même majeur dans leur season là, pour les Bears qui ont signé un joueur très dynamique.
OK. Les Vikings du Minnesota, Steph, est-ce que t'es fâché que je les mette loin des séries?
Ben, ça m'a un petit peu...
Ça t'a froissé.
Ben, je les aurais vus plus dans le troisième essai qui devrait batailler, disons. Là,
OK, OK.
Mais c'est comme ça que je les perçois. Pourquoi? Parce que je peux te dire ça, puis tu vas dire, ben, t'as le droit d'être partisan, mais c'est plus que ça. J'aime beaucoup, moi, ce qui est arrivé à leur défensive. Tu sais, t'as plusieurs joueurs qui sont de retour de blessure. Là. T'sais, juste Daniel Hunter, c'est l'un des 4-5 meilleurs ailiers défensifs de la Ligue, sans exagérer. Il revient au jeu cette année après sa blessure de l'an passé. L'an passé, t'avais perdu aussi les services du secondaire Anthony Barr. Eric Kendricks était tombé en cours de route. Il y a un paquet de joueurs comme ça. T'avais le plaqueur Michael Pierce qui avait opté là, pour ne pas jouer à cause de la COVID. Là, tu rajoutes aussi le plaqueur Dalvin Tomlinson qui sont allés chercher des Giants. La ligne défensive va être beaucoup plus forte que l'an passé. Bon, il y a encore des petits problèmes au niveau de la tertiaire. On a des jeunes joueurs là-dedans. Là, on a été chercher le vétéran Patrick Peterson. Tu sais, c'est un gros nom comme demi de coin, mais c'est clair qu'il est plus dans ses meilleures années. Sauf que je pense qu'il peut amener une présence de mentor, de guide un peu à ces jeunes-là pour les amener là, vers le droit chemin. Puis offensivement, pour moi, c'est pas une question. Là. Les Vikings ont ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs. C'est un excellent duo de receveurs, un des meilleurs duos de la Ligue là, en Jefferson et Adam Thielen. L'un des meilleurs porteurs de ballon avec Dalvin Cook. Un corps arrière, Kirk Cousins, bon, il est mal aimé parce qu'il fait des gaffes dans les pires moments. Là. Mais si tu fais abstraction, c'est un bon corps arrière. J'insiste sur bon parce que c'est pas un excellent corps arrière. Mais il peut faire le travail pour les amener en série. C'est après que ça se gâte, malheureusement. Puis, globalement, les Vikings, c'est un très bon alignement. Les questions, c'est toujours la même chose. Est-ce que Kirk Cousins va répondre dans les grands moments? Jusqu'à maintenant, il nous a très rarement prouvé qu'il pouvait le faire. L'autre point, c'est la ligne à l'attaque. Là, on a été chercher Christian Darrisaw, le bloqueur, en première ronde. Est-ce qu'il va être enfin Le rock qu'on recherche du côté gauche de la ligne, qu'on cherche depuis des années et des années et des années, puis qu'on trouve pas, ça, c'est un grand, grand point à éclaircir. Donc, tout ça va décider un peu du destin des Vikings, mais je les vois comme une équipe là, qui peut se battre là, pour un poste en série.
OK, ben je te le souhaite, mon cher. Puis je vais passer la parole à Jean qui, lui, même si c'est pas son équipe, il les haït pas, je pense, les Cards de l'Arizona. Est-ce que Kyle Murray va les amener en série, Jean?
Ouais, dans le Promised Land. c'est une bonne question. Écoute, une chose est sûre, moi je pense que c'est un club qui est amélioré par rapport à l'an dernier. Juste le fait que Chandler Jones va revenir, ça, c'est une pièce majeure de la défensive des Cards. Tu rajoutes J.J. Watt, là, évidemment, la question, c'est oui, mais pour 3 matchs, 5 matchs, 7 matchs, est-ce qu'il va se blesser? Je le sais pas plus que vous autres, mais s'il est en santé, ça reste que c'est la pression sur le carrière risque d'être très forte quand tu vas affronter la défensive des Cards. En dehors de ça, je pense qu'ils ont quand même fait des acquisitions très correctes pour justement essayer d'améliorer un peu la profondeur de l'alignement. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont amené AJ Green dans un rôle qui est mineur. T'sais, il n'y a pas besoin d'être ultra performant, il est juste là pour assister. Puis le fait, évidemment, que tu as Dee Hopkins comme receveur, ben pour Green, ça se peut qu'il voit beaucoup plus de situations un contre un qui va être profitable pour lui. Donc, moi, j'aime ce que je vois des Cards. C'est un club que moi aussi, j'aurais peut-être mis de l'autre côté. Je pense qu'ils vont vraiment batailler pour un poste en série. Puis moi, le club que je suis vraiment pas vendu, les gars, dans cette division-là, c'est les Seahawks. Pour moi, les Seahawks vont finir dernier. Oh. De l'AFC West.
OK, on en parlera tout à l'heure. Je vois que tu prépares...
Je prépare les choses.
OK.
Moi, j'aime les Cards aussi en passant, mais j'aime pas leur division. C'est ça qui est compliqué là, pour faire les
Non,
séries.
Mais moi, mon point d'interrogation sur les Cards et la division, évidemment, c'est très, très difficile, mais c'est l'entraîneur-chef. Cliff Kingsbury, pour moi, n'est pas pour moi un bon play-caller de ce que j'ai vu dans la NFL. Je suis pas convaincu. Puis quand tu regardes sa fiche au college all-time, c'est 35 victoires, 40 défaites avec Texas Tech. Dans la NFL, c'est 13 victoires, 18 défaites, une nulle. C'est exactement ce qu'il faisait au college. Je vois pas pourquoi ce gars-là est entraîneur-chef dans la NFL. Surtout que son alignement cette année est beaucoup meilleur. C'est une année vraiment importante pour lui. Une mauvaise année des Cards, lui, il passe à job.
OK, il me fallait 10 équipes. Là. Il m'en reste 2 pour des équipes qui ont peu de chances de faire les séries, à mon avis. C'est vrai que les 2 dernières peuvent faire en sorte de faire une bonne fin de saison, mais les Broncos et les Chargers sont les 2 dernières équipes de ce top 10. Stéphane, les Broncos, est-ce qu'ils ont fait la bonne décision mettant Bridgewater comme corps arrière?
À mon avis, non. Moi, j'aurais voulu voir... parce que Bridgewater et Locke, tu sais pas jusqu'où il peut t'amener. T'sais, il y a quand même un certain potentiel. Bridgewater, on connaît pas mal le plafond là, à ce stade-ci de sa carrière. C'est ce que j'aime moins de la décision. Par contre, je peux me mettre dans les souliers des décideurs chez les Broncos. Tu regardes l'alignement, il y a pas de lacune majeure. T'sais, c'est pas un club dominant, mais il reste que somme toute, c'est un alignement qui est bien construit. Très bonne ligne offensive, de bons receveurs. En défensive, on sait qu'ils peuvent faire le travail, les Broncos. Donc, peut-être que tu dis, on est mieux d'y aller avec l'option la plus fiable. Puis, à ce jour, Drew Locke nous a pas démontré qu'il était l'option la plus fiable parce qu'il y a un très bas taux de pourcentage de passes complétées, parce qu'il y a beaucoup de revirements à sa fiche. Mais on parle des revirements de Drew Locke, puis tu regardes, Bridgewater en a eu presque autant l'an passé. Là. Tu vois, il y en a eu 16 avec les Panthers l'an passé, puis Drew Locke, je pense que c'était 18. Donc, c'est là le point où je suis pas convaincu à 100% de la décision des Broncos. Je les vois, eux autres, on parlait des Raiders tantôt, que c'est une équipe qui est là, mais pas toute en même temps. T'sais, c'est pas assez pour être en série, mais pas assez mauvaise pour être considérée parmi les équipes prétendantes au premier choix. C'est un peu dans le peloton de milieu là, que je vois les Broncos encore une fois cette année.
Les Chargers, hein?
Pour moi, les Chargers vont être nettement plus compétitifs. Ouais. C'est une équipe que moi, j'aurais mis de l'autre côté. Écoute, on va voir aussi deuxième année du carrière. J'ai un blanc.
Justin Herbert.
Merci, Justin Herbert. Le carrière freak parce qu'il y a un bras canon de l'Université d'Oregon. Est-ce qu'il va avoir la king de la deuxième saison? C'est possible.
Les gens vont l'attendre cette année, là. On va l'attendre.
Mais de ce que j'ai vu, c'est sa puissance de bras, tu peux pas le limiter, là. Tu sais, les commentateurs défensifs vont faire des ajustements, mais je l'ai trouvé très intelligent à sa première saison. Puis je pense que la défensive des Chargers va être nettement améliorée. Et ça, pour lui, ça va amener évidemment un meilleur équilibre entre l'attaque et la défense. Ça va être positif pour les Chargers. C'est un alignement, quand tu regardes l'alignement au complet, commence à être dans les alignements talentueux de la NFL. Le retour aussi du maraudeur Derwin James, ça, c'est majeur. Si lui est capable d'être resté en santé, c'est un joueur qui fait des jeux dans la tertiaire. Il est dangereux. C'est tout un joueur de football. Moi, j'aime beaucoup les Chargers. Je suis vendu de Chargers. Ce que j'aime pas des Chargers, c'est évidemment l'aura de toujours perdre le match important. L'aura de autour de l'équipe qui est... comment ils vont faire pour perdre une nouvelle partie cette année? Ils trouvent des nouvelles façons de perdre. Ça, c'est assurément quelque chose que le nouvel entraîneur-chef doit changer. Si c'est fait, honnêtement, je pense que les Chargers vont être compétitifs puis ils pourraient peut-être challenger Kansas City dans la AFC West, mais je pense encore qu'ils sont encore une certaine distance.
C'est la permis d'ajouter juste un mot sur les Chargers, de parler rapidement de l'entraîneur-chef. Brandon Staley, là, il arrive des Rams. C'est lui qui dirigeait la fameuse défensive des Rams l'an passé.
Exact.
Donc, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir faire un peu les mêmes... accomplir les mêmes exploits avec une autre équipe. Puis l'autre chose, c'est j'aime beaucoup ce qu'on a fait pour améliorer la ligne à l'attaque. S'il y avait une faiblesse l'an passé avec les Chargers, c'était assurément celle-là. On a emmené le centre Corey Lindsey qui est avec les Packers, qui était dans le top 3 de la ligue, assurément.
Matt Filer aussi.
Matt Filer, un garde qui peut aussi jouer comme bloqueur, un joueur polyvalent si jamais tu as des blessures. Puis on a repêché en première ronde le bloqueur Rashawn Slater. Donc, trois belles améliorations sur le point clairement le plus faible de l'équipe. Chapeau aux Chargers. On va voir ce que ça va donner concrètement sur le terrain. Des fois, t'as pas les résultats escomptés, même si t'as posé les gestes nécessaires. Mais il reste qu'ils ont fait un pas important là pour corriger leur plus grosse lacune.
OK, on est à mi-chemin. Même pas encore, les gars, parce qu'on arrive au troisième essai de notre partie et il reste 17 équipes et 14 places en série. Donc, troisième essai, les équipes qui devraient être en série. Il va nous rester le top 5, mais là, les équipes qui devraient être en série, on commence avec les Colts.
Ben, les Colts, on l'a vu l'an passé, ils ont vraiment bien joué défensivement. Là, ça a été quelque chose, les voir aller. Ils misent sur des secondaires, probablement parmi les plus athlétiques de la ligue. Là. Darius Leonard, c'est tout simplement un monstre. Il a des ailes sur le terrain. Il couvre tellement de terrain que tu peux te permettre là, de d'autres stratégies, t'sais, des blitz de tes demi-défensifs, etc. À l'attaque, t'sais, c'était quand même limité. Là. Bon, Philip Rivers qui a fait du boulot correct, là, disons, à sa dernière saison avant la retraite. On tente une nouvelle recette avec Carson Wentz. Là, la grande question, évidemment, c'est est-ce qu'on va retrouver le Carson Wentz de 2018 un jour?
Parce que avec son ancien coach?
Ouais, c'est ça. Il y a la fameuse connexion avec Frank Reich, qui était à l'époque le coordonnateur à l'attaque des Eagles. Faut s'en rappeler. C'est avec lui là qui a vraiment le mieux travaillé. Mais tu recrées pas une chimie, puis tu recrées pas une confiance parce que Carson Wentz semblait brisé l'an passé à Philadelphie. Là. Est-ce que ça va cliquer d'un coup sec là, parce que les deux se retrouvent? Je le sais pas. Chose certaine, il va être mieux protégé qu'il l'était à Philadelphie. La ligne offensive des Colts, là, parmi les meilleurs du circuit. Ça peut l'aider. Oui, les Colts devraient se battre pour une place en série, mais c'est une conférence qui est très forte, là, l'américaine en ce moment. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Ça va être difficile. Puis c'est la première des choses. Faut que tu déloges les Titans du Tennessee. C'est pas une mince commande en soi.
Washington, Jean, est-ce que Fitzmagic va retourner, va permettre à Washington de retourner au sommet de la division?
Une bonne question, évidemment. Tu vas voir les Cowboys qui vont revenir fort, je pense, cette année. Mais ils ont ce qu'il faut pour, selon moi, remporter encore une fois la NFC East. J'aime ce que je vois. Moi, j'ai beaucoup aimé l'addition de Curtis Samuel. Je trouve que là, tu commences à avoir des outils. Antonio Gibson, le porteur, il est solide. McLaurin est vraiment bon comme receveur numéro un. Là, tu ajoutes un autre aspect explosif dans l'attaque avec Samuel. Adam Humphries qui ont signé aussi. Donc, écoute, il y a une bonne attaque. Il faut maintenant, quel Fitzpatrick? Ça va-tu être le bon vieux Fitzmagic ou le bon vieux Fitzpathétique, comme dirait? Fitztragic. Ou Fitztragic. C'est ça la grande question. Si c'est celui qu'on a vu dans les deux dernières saisons avec les Dolphins, ben honnêtement, je pense que les Washington va être en voiture.
La beauté de la chose avec Ryan Fitzpatrick, c'est que tu vas voir ces deux alter ego, c'est sûr. D'une semaine à l'autre, c'est une montagne russe toujours avec lui.
Ouais, mais il a été beaucoup plus stable, c'est ça, je dirais, dans les deux dernières années avec les Dolphins.
En tout cas, je pourrais t'en parler.
Moi, écoute, mais on verra. Puis ça, si y a moindrement un peu de production offensive avec la défensive que Washington a, ben honnêtement, c'est moi je pense que ça ne peut faire que du positif. C'est pour ça que je les vois remporter cette division-là encore. Je pense que c'est l'équipe la mieux balancée dans la NFC East.
Les Titans, Steph, est-ce qu'ils ont atteint leur sommet ou ils vont continuer de monter? On dirait que c'est dur à croire qu'ils peuvent encore progresser.
Je pense pas qu'ils peuvent vraiment progresser. Là, t'sais, ils ont la recette, là, eux autres, ils l'appliquent, là, c'est clair, depuis 2-3 ans. On vous rentre dans l'or avec Derrick Henry, puis on fait le reste, le nécessaire par la passe. Écoute, ils ont ajouté évidemment là, Julio Jones cette année comme receveur. Là, tu ramasses avec deux énormes cibles, Julio Jones, AJ Brown. Il y a l'ailier rapproché de Jonnu Smith qui est parti, mais j'ai hâte de voir ce que peut faire à sa place Anthony Firkser. Il avait fait du bon boulot dans des opportunités limitées là, l'année passée. Donc, je pense que c'est ce que les Titans espèrent voir de nouveau. Du côté de l'attaque, j'ai hâte de voir parce qu'on a perdu, comme je mentionnais tantôt, le coordonnateur Arthur Smith qui est rendu l'entraîneur-chef des Falcons. Est-ce que ça va affecter un peu là, la performance globale de l'attaque? Ça reste à voir. Puis défensivement, ben c'est toujours les mêmes points d'interrogation. Tu sais, je vois pas nécessairement une équipe grandement améliorée. On a été chercher Bud Dupree, qui est une belle addition, mais je sais pas si Bud Dupree était un joueur si dominant ou si c'était le produit là, de Blitzberg avec les Steelers qui le faisait mieux paraître. Ça va répondre à nos questions cette année. Je pense quand même que c'est un bon joueur de football puis qu'on a bien fait d'aller le chercher. Mais est-ce qu'il va être aussi dominant qu'il pouvait l'être dans certains matchs à Pittsburgh? Hâte de voir ça. Mais je pense pas, somme toute, qu'ils ont la défensive pour passer au niveau supérieur. Oui, c'est une équipe de série. Est-ce qu'ils peuvent aller là, jusqu'au Super Bowl avec cet alignement-là? Je le crois pas à cause de la défensive.
Les Saints, vas-y.
Je veux dire, avec la qualité des deux receveurs qui sont là, par contre, tu peux plus mettre 8 joueurs dans la boîte pour juste surveiller le porteur de ballon. Tu commences à donner de l'espace. Là. Ils sont très dangereux offensivement.
Ouais.
Les Saints, Jean, est-ce que on est dans une pente descendante ou on espère la stabilité pour cette équipe championne?
Mais c'est une équipe qui a encore, je dirais, beaucoup de bons joueurs dans l'alignement, mais je vois difficilement comment tu vas être en mesure offensivement d'être encore solide. Il y a eu beaucoup de pertes, que ce soit Emmanuel Sanders, Jared Cook, puis il n'y a pas eu de grandes additions offensives là, avec les Saints. T'as évidemment Alvin Kamara, Jameis Winston, je pense vraiment qu'écoute, il a monté des belles choses en pré-saison. On sait qu'il est capable de lancer le ballon. La question pour lui, c'est les revirements. Est-ce qu'il va être en mesure d'éviter les revirements? C'est ça la question. Puis là, je trouve qu'il manque un petit peu d'explosion dans l'alignement offensif. Tre'Quan Smith, Marquez Callaway, c'est tes deux receveurs. Michael Thomas ne sera pas là avant la semaine 8. Donc, c'est quand même très, très loin. Donc, ils devront jouer des matchs où la défensive doit être solide et Winston doit éviter les revirements. C'est deux choses pour moi qui
commence même pas la saison à la maison, hein, et à cause de l'ouragan.
Exact.
Là, ça complique leur logistique aussi. Ils ont des obstacles, disons, en début de saison.
Donc, moi, c'est un club que, pour l'instant, ça se peut que je les mette hors des séries. Les Saints, malgré tout le génie de Peyton, qui est l'entraîneur-chef, je pense que ça va être très, très difficile. Mais je m'attends quand même à une saison très, très correcte. Ils vont batailler pour les séries, ça, j'en suis convaincu.
OK, parlant de génie entraîneur, Mike McCarthy à Dallas, Steph, est-ce que...
mon Dieu!
Est-ce que son génie va amener les Cowboys en série?
Je pense pas que c'est son génie qui va les amener en série comme un rebondissement spectaculaire de Dak Prescott. C'est plus ça que j'ai hâte de voir. Comment il va répondre à la blessure dévastatrice qu'il a subie. Puis non seulement ça, ce qu'on dit depuis le début du camp des Cowboys, c'est que en plus, il y a eu des problèmes à l'épaule, là, à l'épaule droite. Donc, c'est ça la grande question autour des Cowboys. Comment va être Dak? Parce que c'est un club qui a le potentiel offensif là, extraordinaire. Tu regardes le champ arrière, tu regardes les receveurs. Je parlais tantôt du duo de receveurs de Minnesota. Là, ici, il faut parler d'un trio là, avec Michael Gallup, Amari Cooper et CeeDee Lamb. Tu sais, c'est tout simplement extraordinaire lancer le ballon à des gars comme ça quand même. Puis défensivement, ben écoute, l'année passée, ça a été très, très, très difficile. On amène Dan Quinn pour essayer de corriger ça. Dan Quinn, avant d'être un entraîneur-chef qui a été mis dehors à Atlanta, rappelons-nous, c'était le coordonnateur défensif des Seahawks dans leurs belles années. Ouais. Donc, tu joueras pas avec les mêmes cartes dans ton jeu à Dallas. Ça, c'est évident. Mais quand même, je trouve que c'est une addition intéressante pour tourner cette défensive-là de bord. Moi, je le crois pas qu'avec des secondaires d'une qualité aussi extraordinaire que ceux que les Cowboys ont, cette équipe-là est aussi mauvaise défensivement, ça se peut juste pas. Je comprends que tout passe pas par les secondaires, mais c'est clairement une position là puissante chez les Cowboys. Je m'attends à une équipe là vraiment supérieure à l'an passé, puis un championnat de division dans une division aussi peu redoutable, pour moi, c'est loin d'être impossible.
Les Steelers, Jean, est-ce que la fin de saison de l'an passé, c'était les vrais Steelers ou c'était leur début de saison qui étaient les vrais Steelers?
C'est vraiment un club que je me pose des questions. Puis c'est, je trouve ça difficile, énigmatique cette année, moi, les Steelers. Est-ce que ça va être les bons vieux Steelers qui jouent solide ou ça va être la décrépitude de cette équipe-là? C'est difficile, honnêtement, à analyser parce que moi, j'ai l'impression, évidemment, avec le choix de repêchage de Najee Harris d'Alabama, c'est un club qui veut revenir à ses origines, donc courir le ballon un peu plus, mais quand tu regardes la ligne à l'attaque, c'est pas menaçant. Écoute, c'est Dan Moore Jr., Kevin Dotson, Kendrick Green, Trey Turner, Okorafor, c'est ça ton 5 partage jusqu'à maintenant. Il y a rien de convaincant là-dedans. On sait que Big Ben, il y a quand même des outils pour lancer le ballon, mais j'ai l'impression qu'ils veulent revenir à un football de possession où tu sais, on gruge du temps, on est solide, puis on a une bonne défensive. Il y a beaucoup du rendement des Steelers qui va être décidé par la ligne à l'attaque.
Et Big Ben, ça reste un gars.
Bonne saison. Ben c'est ça, mais ils veulent le protéger, ils veulent faire comme l'an dernier puis lancer 45 fois le ballon. Parce
ça reste un gars. Ça reste un gars qui se demandait s'il allait prendre sa retraite à faire.
Ouais, mais il a perdu quand même 20 à 25 livres, donc il est en bonne forme physique de ce qu'on a vu par le passé. Déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Puis je pense que les Steelers vont vouloir le protéger un petit peu, mais comme je te dis, pour moi, le rendement va être décidé par la ligne en attaque des Steelers. S'ils ont de la difficulté à courir le ballon, je vois difficilement comment ils vont avoir du succès là avec cette équipe-là.
Steph, est-ce que les Patriots sont dans la liste des équipes qui ont des chances de faire les séries par leur réputation ou ils ont vraiment une bonne équipe sur papier?
Non, là, la farce est finie dans leur cas, là. Ça a duré un an, là, vous me direz. Mais écoute, on a clairement passé le message que 7-9 en Nouvelle-Angleterre, ça passe pas. L'an passé, c'était l'affiche de l'équipe. Ils sont allés chercher 17 joueurs autonomes. 17. Pas n'importe lesquels. On a amélioré le corps de receveur là, qui était vraiment pathétique l'an dernier. On a été chercher deux gros ailiers rapprochés en Jonnu Smith et Hunter Henry. On a amélioré la ligne à l'attaque. On a amélioré la défensive. Il y a plein d'additions. On n'énumérera pas toutes, ça sert à rien. Puis la grande question, évidemment, c'est au poste de corps arrière, Mac Jones, qui devient le partant de l'équipe. On l'aurait pas cru là quand même. Mac Jones, au repêchage, il y en a plusieurs qui le dénigraient. Moi, je m'inclus là-dedans. Là, c'était pas mon corps arrière préféré au repêchage. Là, il est en train de nous faire solidement mentir. On va voir maintenant là, quand il va affronter les partants, parce que là, en pré-saison, il a quand même surtout joué contre les numéros 2, les numéros 3 des autres équipes. Mais semble-t-il qu'il maîtrise vraiment, vraiment bien le fameux livre de jeu de Josh McDaniels et de l'attaque. Ça, c'est très bon signe en partant pour une recrue. Là, quand tu absorbes ça comme une éponge, c'est prometteur. Puis c'est un style qui cadre bien avec les Patriots, Mac Jones, parce qu'on mise sur sa précision. Tu sais, c'est pas nécessairement on n'a pas besoin du bras le plus canon de la ligue. Là. Donc, il cadre bien dans la philosophie offensive de l'équipe. Moi, je vois les Patriots revenir en série. Il faut pas oublier une chose. Un excellent champ arrière. Là. Je pense qu'on va courir beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la balle pour enlever de la pression inutile à Mac Jones. On va voir beaucoup là de Damien Harris, Ramondre Stevenson, même une recrue qui a connu un très bon camp. Ça risque de courir à outrance en Nouvelle-Angleterre. Revenir un peu là au passé, au début de la carrière de Tom Brady, si on veut, là, dans le début des années 2000, pour après ça le laisser exploser là tranquillement.
Okay. Une chose est sûre, c'est Mac Jones, par contre, est un peu plus prêt que Brady l'était à ses débuts. Ouais. Il a vécu plus de choses au college.
Fait qu'il va être meilleur que Brady, c'est ça que tu dis.
À ses débuts. Je dis juste qu'il est plus prêt à ce que les Pats rouvrent le jeu un petit peu. Mais Mac Jones, écoute, je vois tout ton ressentiment pour les Pats qui ressort. J'ai pas de problème avec ça, Jean-Nic, mais Mac Jones a vraiment tombé dans le système idéal. C'est un carrière qui était vraiment pas, je dirais, dans les meilleures carrières. Il a été repêché au bon endroit par la bonne organisation. Il fit bien dans le système. Maintenant, est-ce qu'il va être bon? On va le voir cette année.
Une autre équipe qui a ajouté un corps arrière en première ronde, et je les ai mis là, mais on dirait que moi, c'est eux que je pense qu'ils vont avoir une mauvaise saison. C'est les 49ers.
Ouais, moi je vois pas, moi je les vois revenir très très fort cette année.
Oui. Moi aussi.
Ils ont trop de talent. Écoute, George Kittle qui revient, c'est en santé. Ils ont des gars explosifs quand tu penses à Deebo Samuel et Yuck. Le champ arrière, je veux dire, très très solide. Mustard, ils sont allés chercher Trey Sermon au repêchage.
Un exact
d'Ohio State, un gros bonhomme qui court pesant. Mustard également, il est pas facile à arrêter. Puis surtout, pour moi, les meilleures signatures pour les Niners cette année, ben, ça a été Trent Williams. Ils ont signé Alex Mack sur la ligne à l'attaque. Deux gars clés. Eux autres savent que c'est par là que ça se gagne les games. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et je pense que défensivement, ben, ils ont été blessés beaucoup l'an dernier. Il y a beaucoup de gars qui sont de retour. Je vois pas, honnêtement, comment les Niners vont avoir une mauvaise saison. J'y crois pas. Jimmy G aussi a des choses à se faire pardonner. Moi, j'ai l'impression qu'il va quand même connaître un très bon début de saison. Et je m'attends à une grosse saison des Niners.
Moi, j'ai hâte de voir du côté de San Francisco si on va préconiser un système à la Saints des dernières années. Là, c'est-à-dire...
Ah oui, tu penses?
Garoppolo comme corps arrière à temps plein, mais à tout bout de champ... T'amène Trey Lance sur un jeu comme les Saints le font avec Taysom Hill. Je pense que c'est ça qui se dessine à l'horizon à San Francisco. Ça pourrait devenir une équipe fort intéressante à voir évoluer offensivement.
Les Dolphins, Steph, est-ce que tu as été convaincu du jeune Tua en pré-saison?
Ça va être dur d'être convaincu avant de le voir vraiment en match régulier. T'sais.
On l'a vu l'an passé.
Ouais, mais on l'a pas vu énormément non plus. Puis c'était une recrue. J'ai trouvé que les gens étaient vite. J'ai rarement vu une foule aussi nombreuse à dénigrer un corps arrière après une demi-saison. Là. C'était complètement fou dans mon esprit. On voit plus ça. On laisse le temps maintenant aux jeunes. Mais ce qui aide pas, c'est que t'as toujours un Justin Herbert qui sort du lot dès sa première année, qui brûle la ligue. Puis là, faut que tu le compares forcément à ces gars-là. C'est ce que exact. J'ai trouvé difficile dans son cas. C'est sûr qu'il a montré des choses des fois qui nous laissaient de glace un peu, là, tu sais, l'espèce d'aversion au risque et tout ça. Mais quand même, c'est un jeune corps arrière en développement. J'ai trouvé ça étrange, en tout cas, la réaction des gens à son endroit, à le déclarer fini, puis un boss là, aussi rapidement. Là, on a ajouté de la vitesse à l'attaque avec Will Fuller puis Jalen Waddle, les receveurs. Ben, j'ai hâte de le voir. La question aussi devant lui, c'est la ligne offensive. Là, il y a pas mal de jeunesse là-dedans. Il y a eu beaucoup de changements. Ça, c'est un point qui est très important là, pour la confiance d'un jeune corps arrière d'être bien protégé. Ça laisse perplexe un petit peu de ce côté-là. Je sais pas toi ce que tu en penses, Jean-Nic, parce que c'est ton équipe. Mm-hmm. Tu suis vraiment au quotidien, mais la ligne à l'attaque me fait peur un peu.
Ben, on dirait qu'il n'y a aucune équipe qui a une bonne ligne à l'attaque, à part les 5-6 qui se retrouvent souvent au sommet de la pyramide. C'est vrai que la ligne à l'attaque, il y a encore beaucoup de questions. Regarde encore, Austin Jackson est sur la liste COVID. Pour cette semaine. On ne sait pas s'il va jouer le match dimanche. On ne sait pas qui va le remplacer. C'est sûr qu'il y a une chance qu'on a une défensive qui, d'après moi, va rester top 5 et qui fait beaucoup de revirements, mais à l'attaque, il y a beaucoup de questions.
Défensive, j'ai pas trop de questions, moi, du côté des Dolphins. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime l'addition du maraudeur canadien aussi, Javon Holland, un gars qui peut jouer demi de coin, maraudeur, il peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur. On devrait le voir beaucoup, là, normalement, lorsqu'il jouait à Oregon, il couvrait beaucoup de terrain. Donc, il y a des belles choses du côté des Dolphins. J'aime moins, évidemment, qu'il soit dans la division des Bills et des Patriots, je pense. Pour l'instant, que les Patriots sont supérieurs aux Dolphins, je sais que je te dégoûte de dire ça.
Tu m'attristes, mais écoute, pour le moins.
Puis peut-être que je me trompe complètement, je suis peut-être dans le champ, on le saura. Mais honnêtement, ça risque d'être difficile. Tu sais, je les vois encore, on parlait tantôt des Broncos puis d'autres équipes qui cognent à la porte des séries, qui vont vraiment se battre jusqu'à la toute fin, mais ça risque d'être difficile.
OK,
à part reste... si Tua progresse vraiment, qu'il fait un pas de géant,
c'est impossible. Mais
faut vraiment surveiller aussi Jalen Waddle, parce que faut pas oublier que Jalen Waddle a été préféré à Devante Smith. Puis probablement que Tua a eu son mot à dire parce qu'il a joué avec les deux. Donc, ça veut dire qu'il préférait peut-être Waddle à Smith comme receveur. Ça va être intéressant de voir la chimie entre les deux.
Faut pas oublier non plus que quand on a demandé à Waddle avec qui il préfère jouer comme corps arrière entre Tua et Mac Jones, il a répondu Mac Jones. C'était avant le draft, évidemment.
Oui, évidemment.
OK. Jean, tu parlais des Seahawks tantôt qui ne feraient pas les séries. Qu'est-ce qui te prend? Tu crois plus en Russell Wilson, monsieur MVP?
Ben, je crois tout à fait en Russell Wilson, mais je pense qu'il commence à être déserté un petit peu. C'est surtout la défensive. Faut pas oublier que l'an passé, la défensive a été horrible, spécialement en première moitié de saison.
Ouais, ça s'est replacé un petit peu quand même.
Vers la fin, mais c'est pas une défensive qui est dominante. C'est loin d'être dans le top 15. Je la mets même pas dans la première moitié des défensives de la NFL. C'est là, pour moi, que le bas blesse, puis avec le fait que c'est une division qui est très forte, que je trouve qu'Arizona s'est vraiment amélioré, ben pour moi, c'est qui le club qui est pour moi est le plus faible de cette division-là? Pour moi, c'est clair et net. Même avec Russell Wilson qui fait des miracles, c'est pour moi les Seahawks, c'est le club le plus faible de cette division-là. Puis je vois pas les quatre clubs en série. Donc, pour moi, il y a une seule chose que je peux dire, c'est que les Seattle ne feront pas les séries et les trois autres vont être dedans parce que les Rams vont les faire assurément. Les Niners, je suis convaincu aussi. La seule chose, c'est maintenant, c'est décider entre Arizona et Seattle, quel est le meilleur club.
Perso, moi, c'est Arizona que je vois hors des séries. Mais écoute, c'est pas un mauvais point. Tu regardes l'alignement de Seattle, il y a des trous importants. J'aime par contre qu'on ait ajouté le garde Gabe Jackson.
Oui, c'est
un
bon
qui
point.
Était solide avec les Raiders. Là, il a loué pas.
Ils ont gardé Carlos Dunlap aussi. Tu sais que c'est pas mauvais pour en défensive, mais je suis pas convaincu. Puis faut qu'il remplace Shaquille Griffin. Ça aussi, là, je suis pas convaincu qu'ils ont réussi à faire ça. C'est Witherspoon qui sont allés chercher pour faire ça. Pour moi, c'est...
Ah, puis ils l'ont échangé là, la semaine passée à Pittsburgh.
C'est un move que j'ai
trouvé surprenant parce que je le voyais, moi, comme un remplaçant intéressant quand même, là, sans parler de joueur dominant. Là. Puis à la toute fin là, de la semaine passée, ils l'ont échangé aux Steelers. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, il y a peut-être un trou. Là.
OK, Steph, est-ce que c'est le retour du Greatest Show on Turf avec les Rams et Matt Stafford?
Hey, c'est très, très, très intriguant, ça, parce que c'est sûr, là, le monde, ils disent, ouais, Matt Stafford, il a jamais amené son équipe en série tant que ça, puis il a pas gagné de match de série à Détroit, mais il se retrouve avec un alignement, là, complètement boosté. Du côté de l'attaque, là, écoute, il y a l'embarras du choix du côté des receveurs. Donc, ça va être fort intéressant. Moi, c'est sûr que je vois les Rams en série. Mais Matthew Stafford, On semble oublier, on a toujours dit « Ah, il a été entouré de pas bons à Détroit », mais il a quand même joué pendant des années avec le receveur le plus dominant de la NFL en Calvin Johnson. Donc,
c'était le seul qu'il y avait, par exemple.
Est-ce que je suis prêt à dire le Matthew Stafford, c'était l'élément manquant qui amène les Rams au Super Bowl. Moi, je me rends pas jusque-là, personnellement. J'aime Stafford. Je pense qu'il peut améliorer les Rams, mais les amener au Super Bowl, pour moi, les Rams ne sont pas encore supérieurs aux Packers ou aux Buccaneers dans la conférence. Ils vont faire un bout de chemin, mais je les vois pas au Super Bowl, malgré l'arrivée de Stafford.
Les Browns, Jean. T'es Browns, Jean.
Oui, on veut t'entendre.
T'es Browns, Jean.
Ben écoute, les Browns, tenez-vous-le pour dit, messieurs, mais l'AFC Nord va leur appartenir cette année.
Oui, je suis d'accord.
Je pense qu'ils vont finir champions de division depuis fort longtemps. Quand tu regardes honnêtement l'alignement des Browns, c'est un des mieux balancés présentement dans la NFL. Pour moi, c'est un alignement top 5. Ils ont en plus amené un peu plus de profondeur en défensive. Je pense à, évidemment, Jadeveon Clowney. C'est pas pour moi la signature la plus spectaculaire, mais ça va donner un peu plus d'espace à Myles Garrett de l'autre côté. Il faut que tu choisisses ton poison, si tu veux. Si tu doubles un, ben l'autre va être un contre un, probablement. Ils ont quand même là des bons joueurs intérieurs. La position de secondaire était probablement la position la plus faible de l'équipe. Ils ont eu des améliorations à ce niveau-là également. Ils ont fait venir, Mack Wilson, Anthony Walker, puis Taki, c'est les secondaires présentement. Je trouve que c'est correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Puis ils ont vraiment amélioré la tertiaire. C'est une tertiaire qui est, selon moi, dangereuse présentement, avec Denzel Ward, Harrison Jr., Johnson III, puis Greedy Williams, qui est une belle acquisition aussi. Moi, c'est un club qui a très peu de faiblesses à l'attaque. On peut dire ce qu'on veut. C'est sûr que Baker Mayfield, je trouve, a progressé beaucoup sans OBJ l'an passé. Le retour d'Odell Beckham Jr. va-tu faire en sorte que ça va mettre le KO dans cette attaque-là? Je pense que non. Puis on peut dire ce qu'on veut, mais dans le match de série contre les Chiefs, il manquait, j'ai trouvé, une autre menace offensive aérienne. OBJ a pas manqué de l'année sauf au dernier match des Browns. Il est de retour. Maintenant, c'est de savoir dans quel état d'esprit. Ça a l'air d'être très positif présentement. Donc, moi, j'ai les Browns non seulement en playoff, mais je les ai champions de division.
Ouh, OK. Bon, ben c'est beau, les gars. On fait une pause après notre troisième essai. On a passé presque toutes les équipes. Il en reste cinq. Les cinq équipes que j'ai choisies dans le top 5 pour finir au sommet de la NFL. On en parle après la pause. Restez là. On est de retour à la zone payante et au quatrième essai, on y va évidemment. On est dans un esprit compétitif et on est en semaine 1 de la NFL. Quelles sont les cinq meilleures équipes de la Ligue? On commence par, Stéphane, si tu le veux bien, le choix que j'ai pris pour cinquième, les Packers. J'ai mis loin un petit peu, mais je veux te faire réagir.
Ben, cinquième, pour moi, sont vraiment dans le top 3, là, disons. Mais moi, je les vois au Super Bowl, même, les Packers. Je trouve qu'on a trop longtemps dit, ça, c'est Aaron Rodgers, puis s'il était pas là, l'équipe serait pas aussi forte, nanana. C'est évident, ça, mais il y avait trop de lacunes, finalement, les Packers. En ce moment, c'est plus le cas. C'est une équipe qui est très complète. Il n'y a pas de grosses faiblesses majeures. Peut-être le côté droit de la ligne à l'attaque qui représente un certain point d'interrogation. Mais là, écoutez, on est rendu à chercher des poux. Là. Quand on regarde un côté de la ligne, là, de très bons porteurs de ballon, les receveurs, c'est mieux que c'était. Tu sais, il y a Devante Adams, évidemment, mais en dessous de lui, Valdez-Scantling, qui est de plus en plus un abonné au gros jeu. Aaron Rodgers, qui s'est découvert un ailier rapproché intéressant en Robert Tonyan.
Tout à fait.
Défensivement, les Packers, on a eu souvent tendance à dire, ouais, c'est ce qui blesse l'équipe vraiment, c'est ce qui leur fait mal. Ils ont terminé dans le top 10 l'an passé, là, les Packers, faut pas l'oublier. Puis la seule année qu'Aaron Rodgers a remporté le Super Bowl en 2010, c'est une année où il y avait eu une défensive top 10, justement. Donc, j'ai l'impression que cette tendance-là de la défensive qui progresse va continuer avec un excellent demi de coin en Jerry Alexander. C'est une équipe qui peut aller vraiment, vraiment très loin. Puis Aaron Rodgers, écoute, toute la saga qu'il y a eu durant la saison morte, est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce que les Packers vont l'échanger? Est-ce qu'il va rejouer un essai dans sa vie à Green Bay? Il est finalement de retour. J'ai toujours cru qu'il reviendrait. Puis il y a juste une chose qui est plus dangereuse qu'un Aaron Rodgers. C'est un Aaron Rodgers suprêmement motivé, comme il va être cette année. T'sais, il va être motivé à faire manger leur bas aux Packers. Il va être motivé à amener sa carrière à un autre niveau pour l'an prochain, parce qu'on se doute, là, moi je pense que c'est sa dernière année à Green Bay. J'ai l'impression que c'est irréconciliable, les différences, les divergences avec l'organisation. Donc Aaron Rodgers, motivé à ce point-là, ça risque de faire mal partout dans la ligue.
On passe aux Ravens. Jean, tu disais tout à l'heure que les Browns allaient remporter la division. Est-ce que tu penses que les Browns sont mieux balancés que les Ravens, une équipe aussi établie et avec autant de succès dans les dernières années?
Ben, un petit peu, parce que je pense que les Browns peuvent faire mal autant au sol que dans les airs. Je pense pas que c'est le cas encore des Ravens. On s'entend que défensivement, ils sont là. L'alignement aussi est très, très fort. J'ai aimé... Tu vois clairement que les Ravens veulent développer un peu plus le jeu aérien. L'addition de Sammy Watkins, pour moi, est une excellente addition, s'il reste en santé, évidemment. Devin DuVernay, Marcus Brown, deux gars très rapides. Il faut développer, je dirais, un passing game plus vertical un petit peu, mais il faut que tu inclues tes receveurs éloignés, ce qui est difficile présentement avec les Ravens. Est-ce que ça va être le cas cette année? S'ils sont en mesure de le faire, ben ils vont être très dangereux. Ça va devenir un club très, très, très difficile à jouer. Si c'est les mêmes Ravens qu'on a vu, donc dominant au sol et par la passe, ben un peu plus ça passe par les alliés rapprochés de l'excellent Mark Andrews, mais ça se limite à ça, ben ça va être un peu, je pense, les mêmes Ravens qu'on va voir, donc très près de la tête, très près d'être très solide en playoff, mais pas capable encore de passer au prochain niveau. Moi, c'est ça que j'ai l'impression que ça va encore donner du côté des Ravens. Ils ont été très solides, par contre, avec l'addition de Kevin Zeitler puis Lanova sur la ligne à l'attaque. Leur ligne à l'attaque est vraiment, vraiment bonne, les gars. Donc, on va voir ce qu'il y en est. Ça reste un excellent club. Si tu me dis que tu préfères les Ravens aux Browns, j'ai aucun problème avec ça. Ça reste un excellent club de football.
Moi, mon seul problème avec les Ravens, c'est le champ arrière qui était normalement une force absolument dominante. Là, ils viennent de perdre J.K. Dobbins pour l'année. Puis, ils ont perdu même un de ses réservistes, Justice Hill, pour l'année aussi.
Gus Edwards, pour moi, est un bon... Il est très solide.
Tout à fait, mais faut
là,
pas
il manque, trouble, il manque, exact, faut, il manque
il y a un plus petit peu de profondeur, là, tu sais. C'est là que ça peut être dangereux à surveiller de ce côté-là.
On en parlait tout à l'heure, une équipe qui était un petit peu tourmentée par l'interne avec entre autres Cole Beasley qui faisait du militage, qui militait pour les anti-vaccins. Est-ce que les Bills vont se concentrer sur leur but cette année de remporter le Super Bowl?
Ben, il faudrait qu'on arrête de parler de COVID puis de vaccins dans leur cas, là, parce que ça risque de diviser l'équipe. Ça peut toujours faire peur. Mais si tu regardes l'alignement qu'ils ont, là, moi, j'ai pas de crainte vraiment, là, de ce côté-là. Josh Allen, qui a montré une progression fulgurante l'an passé, là, moi, je m'attendais pas qu'il devienne un corps arrière aussi précis. Je croyais encore en lui. Je croyais en son bras. Ça, il y avait pas de doute. Je croyais en ses dispositions athlétiques. Mais la précision de son jeu, moi, c'est ce qui m'a le plus fessé l'an passé, là, du côté de Josh Allen.
C'est la plus grande amélioration dans l'histoire d'un carrière qui était imprécis à précis du jour au lendemain. Moi, j'ai jamais vu ça, là.
Ouais, puis il est bien dirigé, il y a une belle stabilité du côté du personnel d'entraîneur à Buffalo. Ça risque de l'aider à pas régresser, finalement. Puis même s'il y avait une petite régression par rapport à sa saison presque MVP de l'an passé, ce serait pas dramatique non plus. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il reste concentré à jouer du football de haut niveau puis à éviter les crampes mentales, là, qui faisaient un peu sa renommée, tristement, à ses débuts. Là, rappelez-vous des jeux parfois vraiment idiots qu'il a pu faire. Là, c'est plus le cas. C'est de plus en plus limité, là, ces gaffes mentales-là. Donc, les Bills... La grande question dans leur cas, pour moi, excusez-moi l'expression, mais c'est le pass rush. C'est ce qui me faisait un peu tilter l'an passé. Il y avait beaucoup de difficultés à appliquer de façon constante la pression sur le corps arrière adverse. Ils ont été chercher deux ailiers défensifs recrues au repêchage. C'est très intriguant. On parle entre autres de Gregory Rousseau, qui vient de l'Université de Miami, qui a pas joué en 2020.
Qui a glissé pendant le repêchage en plus.
Ben, c'est un peu pour ça qu'il a glissé. On en parlait comme d'un freak athlétique pas possible. Il y avait une saison 2019 absolument débile à Miami. 2020, il a pas joué. Là, c'est quel Gregory Rousseau qu'on va voir. T'sais, il va falloir qu'il aide le front défensif rapidement. On a repêché aussi Carlos Basham. Donc, deux joueurs sans expérience qui risquent d'être amenés à contribuer là, rapidement pour ce qui était probablement la plus grosse lacune chez les Bills. Donc, de ce côté-là, ça va être intéressant à surveiller.
On y arrive, les deux meilleures équipes, les deux dernières équipes qui se sont affrontées au Super Bowl. Est-ce que les Chiefs de Kansas City et Tampa Bay se reverront au Super Bowl cette année? Jean, est-ce que les Chiefs vont passer à travers les Bills ou les Bills sont à la hauteur des Chiefs cette année en série?
Faut pas que tu oublies les Browns non plus dans le mix, Jean-Nic, mais j'ai les Bills pour moi cette année qui va être la meilleure club de l'AFC. Je pense quand même que les Chiefs sont là, on sait jamais ce qu'il y a. Patrick Mahomes, pour moi, demeure le meilleur joueur de la NFL. Il est absolument spectaculaire, mais il devra être spectaculaire cette année parce que je trouve que l'alignement commence à être un petit peu moins solide qu'il était. J'aime pas le fait qu'ils ont aucun gabarit acceptable pour moi au poste de receveur. Ils ont juste des petits marchands de vitesse. Tyreek Hill, on le connaît, très dangereux. On connaît maintenant la recette. Il y a plusieurs clubs, je pense, qui vont commencer à le doubler puis vont forcer les équipes à... Ben, vont forcer les Chiefs à vouloir lancer à Mecole Hardman ou à Byron Pringle. Deux petits receveurs. J'aime pas le fait qu'ils ont perdu Sammy Watkins puis qu'ils l'ont pas remplacé. Ils ont pas de possession receiver que je trouve décent.
Il y en a quand même un gros qui a souvent le ballon, par exemple. Kelsey.
Oui, Kelsey, mais c'est un ailier rapproché, ce qui est un petit peu différent. C'est le meilleur tight end de la NFL, mais on s'entend que les Chiefs demeurent les Chiefs. Là. C'est une excellente équipe. Moi, je les vois perdre un petit peu plus de matchs cette année en saison régulière. Est-ce que ça va être assez pour qui va finir premier dans l'AFC? Ça se peut que ce soit eux, ça se peut que ce soit les Bills, c'est un ou l'autre, mais je les vois pas retourner au Super Bowl cette année.
Faut pas oublier que les Chiefs ont greffé
phénoménal
de talent sur la ligne à l'attaque. C'est exact. Impressionnant ce qu'ils ont fait pour remodeler cette unité-là qui leur a fait perdre le Super Bowl carrément. Là. Il y avait des blessés importants, mais il n'y avait pas de profondeur. Ce sera plus le cas cette année. Si t'as un gars qui tombe au combat, t'en as un autre en arrière. Là. C'est vraiment une armée qu'ils ont au niveau de la ligne offensive.
Exact. T'sais, quand t'as Laurent Duvernay-Tardy que tu peux te permettre d'être sur le banc jusqu'à maintenant, ben t'es en voiture, là. On s'entend là-dessus. Ils ont perdu Carl Long, par exemple. Mais encore là, la profondeur n'est pas encore affectée. Défensivement, c'est une bonne équipe. C'est pas une équipe qui est top 5 défensive, mais c'est une bonne équipe bien coachée. Encore une fois, les Chiefs vont être très, très dominants cette année.
Tampa Bay, on a tout dit sur eux. 17-0, première équipe invaincue depuis les Dolphins cette année. Tom Brady au sommet de sa forme. Tout va bien. Ils ont re-signé toute leur voix.
Ça ferait plaisir que Tom Brady fasse tomber la marque des Dolphins de 72. Hein, je suis convaincu.
Est-ce que tu penses que ça va arriver?
Non, quand même pas. C'est pas évident. Là. Surtout une saison à 17 matchs. À un moment donné, tôt ou tard, là, tu pognes un caillou sur la route. Là.
Quel âge Tom Brady pour le fun, les gars?
C'est mon âge. Là,
c'est sa saison de 44 ans. Là.
44 ans? Mais je peux te dire qu'on dira pas ça de moi au sommet de sa forme à 44 ans.
Les Bucks, ben c'est connu, là, ils ont gardé tout leur monde. C'est ce que je retiens principalement de leur saison morte.
Oui.
On s'attendait que des morceaux importants quittent le navire, là, que ce soit Chris Godwin, que ce soit des éléments en défensive, Shaq Barrett, entre autres. On a tout signé notre monde. Tu sais, il n'y a pas un partant qui n'est pas de retour. Ça, c'est à peu près du jamais vu là, pour une équipe championne du Super Bowl. Est-ce que ça veut dire que forcément ils ont le même alignement, ils ont encore Tom Brady, donc pourquoi on ferme pas les livres puis on les nomme tout de suite champions du Super Bowl? Ben c'est pas comme ça que ça se joue sur le terrain. Mais honnêtement, ils ont une équipe encore totalement dominante. Je sais pas toi Jean si tu vois une équipe capable de les détrôner dans la nationale. Moi je te dis, je suis allé avec les Packers pour les raisons que j'ai expliquées tantôt, mais ça reste que les Buccaneers tu peux carrément pas lever le nez dessus. Est-ce que le mur inévitable du temps va frapper Tom Brady? Peut-être, mais il n'y a montré aucun espèce de signe précurseur de ça là, jusqu'à maintenant. Écoute, il est plus mobile qu'il l'était à ses débuts. Je vois pas comment cette équipe-là peut connaître une mauvaise saison, sait-on jamais. T'sais, l'année passée, la chimie a pris un peu de temps à lever. Au début, c'était pas très convaincant. Puis quand ça a pogné, écoute, il était plus arrêtable. Je continue de croire en mon choix des Packers, mais je fais peut-être juste me conforter là, dans mon choix. Là.
Ben, moi, je peux donner mon choix au Super Bowl, les gars. Là.
Mm-hmm. Vas-y,
est-ce que c'est le moment? Moi, j'ai les Bills. Aussi. J'ai les Bills dans l'AFC et j'ai les Rams dans la NFC qui remportent
le Super Bowl. Bon, Matt Stafford, believer.
Ouais, Matt Stafford, believer, mais surtout le fait pour la défensive dominante. Si tu veux battre Tom Brady, quelque part, ça va te prendre une défensive dominante. On se rappelle que les Rams, qu'est-ce qu'ils avaient fait contre Brady au Super Bowl? Ils avaient été excellents défensivement. Il leur manquait cette attaque. Si Stafford est capable juste de combler un peu de ça, moi, je pense que les Rams sont en business.
OK, on va quand même te laisser.
Mon Super Bowl, moi, je te dis, là, j'ai les Packers.
Packers, comme
je
vous disais.
Contre les Bruns.
Oh! Wow!
ouais. J'y vais avec les Browns pour la qualité globale de leur alignement, leur ligne offensive qui est probablement la meilleure de la ligue. Là.
Ça va faire des belles couleurs au Super Bowl, jaune et vert avec orange et brun. C'est magnifique.
Un Super Bowl à l'ancienne, tu sais, les années 40, les franchises dominantes de la vieille époque. Là. C'est parfait.
OK. Hey, moi, je suis pas prêt à donner ma prédiction pour le Super Bowl tout de suite, par exemple, mais j'admire votre courage là, de vous être mouillé.
Faudrait que tu fasses vite, Jean-Nic, ça commence jeudi.
C'est vrai. OK, avant la fin de l'émission, je vais vous donner ma prédiction. Les gars, merci d'avoir fait le tour des équipes. On finit-tu avec une petite question quiz pour se réchauffer au début de l'année?
Ben, il faut.
OK, alors, je vais vous en poser une facile. Je dis toi, ça, c'est toujours de mettre de la pression. Cette année, on va jouer le 56e Super Bowl de l'histoire. Le premier a été joué en 1967. Quelles étaient les deux équipes qui se sont affrontées pour le Super Bowl numéro 1?
Packers et Chiefs.
Exact.
Qui était MVP?
Bart Starr.
Bravo!
Plusieurs mots. Hey, on vous jure, c'était pas arrangé avec le gars des vues. Là.
Yeah.
Bien joué, les gars. Vas-y, Jean, t'as l'air parti.
Ben, on va faire nos prédictions pour la semaine 1.
Après la pause, restez là. Après la pause, c'est les prédictions pour la semaine 1. Ça part pour vrai, là, cette semaine. OK, bougez pas. On est de retour à la zone payante. C'est Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. Semaine 1, les gars, on y va. Prédiction pour les matchs. On commence jeudi, Dallas Cowboys contre les Buccaneers de Tom Brady. Ils sont supposés se rendre au Super Bowl pour certains, pas vous autres.
Ben, ils vont être dans le mix, ça c'est sûr. Puis est-ce que Dallas s'est assez amélioré défensivement pour pouvoir challenger Brady à semaine 1? La réponse pour moi, c'est non. J'ai les Bucks.
OK, Steph.
J'ai les Bucks aussi. Là, ça va commencer pas mal en douceur. Là. Les Cowboys sont capables de marquer pas mal de points,
exact. Mais
pas capables de rivaliser point pour point avec les Bucks. Puis à noter du côté des Cowboys, là, l'absence du garde Zach Martin qui pourrait faire mal, notamment sur le jeu au sol.
Dimanche, les Bills affrontent les Steelers.
Ça commence fort. Hein? De mon côté, je vais y aller avec une victoire des Bills, une équipe en qui j'ai pas mal confiance cette année. Les Steelers, ben Jean le mentionnait tantôt, moi c'est la ligne à l'attaque là, qui me fait peur. Puis c'est un test intéressant pour les recrues dont je parlais des Bills sur la ligne défensive tantôt. T'affrontes une ligne à l'attaque. Une unité qui est nouvellement assemblée, tu sais, qu'il y a pas nécessairement beaucoup de gars avec une riche expérience. C'est le temps de s'affirmer, donc les Bills vont l'emporter.
Ouais, Josh Allen va faire la différence. C'est pas vrai que Big Ben va jouer mieux que lui. J'ai d'ailleurs Josh Allen pour être le MVP de cette ligue cette année.
Oh.
Donc je prends les Bills.
Sam Darnold qui va affronter ses anciens coéquipiers la semaine 1 entre les Panthers et les Jets.
Sam Darnold Bowl. Hey, ça, j'aurais pas pensé dire ça un jour, le Sam Darnold Bowl.
Exact.
Ça sonne bizarre. Mais écoute, je vais y aller, moi, avec une victoire du jeune Zach Wilson, sa première NFL avec les Jets. Hein. On va mettre un peu de piquant dans ces prédictions-là. Je sais pas, je suis pas convaincu. Là, j'ai hâte de voir Sam Darnold, mais je sais pas si c'est juste un changement d'air qu'il fallait. Il a encore raison de croire en lui. Là. Je peux comprendre que jusqu'à un certain point, on lui donne une chance parce qu'il jouait avec une équipe exécrable. Mais je suis pas 100% convaincu qu'il verra pas moins de fantômes en Caroline. Là. La ligne à l'attaque, c'est pas bien ben plus vargeux que ce qu'il y avait avec les Jets.
Mais la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin de ligne à l'attaque parce que t'as Christian McCaffrey qui peut transformer n'importe quel gain en un touché. Donc, moi, je vais prendre Caroline, je vais m'attendre à une énorme journée de travail de CMC, puis une première victoire pour Sam Darnold avec sa nouvelle équipe.
Peut-être déjà le choix numéro un sera décidé lors de ce match entre les Texans de Houston et Jacksonville.
T'es en train de nous dire que c'est un match d'une importance cruciale en partant.
Déjà, beaucoup de choses sur la ligne.
Ah, moi, je parlais d'un jeune corps arrière avec sa première victoire. On va y aller pour un deuxième, tiens. Fait que deux victoires de corps arrière recrues cette semaine. Trevor Lawrence, qui va aller chercher ce match-là? J'ai hâte de voir parce qu'en match pré-saison, à part son troisième départ, ça a été très difficile pour l'attaque des Jaguars et Trevor Lawrence en particulier. Peut-être qu'il y avait trop d'attentes. On en parle tellement là, comme d'un corps arrière, d'un talent rare, générationnel, que peut-être les attentes étaient trop élevées là, pour des matchs préparatoires. Est-ce que les Jaguars ont sorti leur véritable attaque aussi ou on a sorti un playbook plutôt vanille, là, question de pas dévoiler nos cartes tout de suite? Il y a peut-être ce facteur-là aussi, ça reste à voir. Mais de toute façon, attaque vanille ou pas, ça devrait être assez pour passer à travers des
Jean, est-ce que Houston va faire plus de points que le nombre de fois on va voir Deshaun Watson sur le banc à la caméra?
Ben, faut pas oublier, les gars, que c'est Tyrod Taylor qui est carrière. Donc, pour moi, c'est avantage Jacksonville sur toute la ligne. Pour moi, Houston est tellement mauvais cette année. Si on a une chance de gagner, c'est peut-être là. Profitez-en, mais je prends quand même les Jaguars.
Les Cards contre les Titans du Tennessee à Nashville.
C'est une corsée. Je vais prendre honnêtement les Titans du Tennessee dans ce match-là. Je pense qu'offensivement, ils sont tellement dangereux. On va voir ce que ça va donner là, du côté des Cards.
Ouais, j'y vais aussi avec hésitation avec les Titans. Les Titans ont souvent battu des clubs qu'on pensait jamais qu'ils allaient battre. Ils sont arrivés contre des clubs plus faibles. Là. Ils peuvent échapper une game contre Jacksonville à un moment donné. C'est ce genre d'équipe-là. C'est pour ça qu'ils finissent jamais à 13-3, mais qui sont toujours plus proches là, de la fiche de 500. Quoique l'année passée, bon, c'était 11-5. Là. Mais les Titans, tiens, ça va être un gros, gros match de Derrick Henry, encore une fois. La même bonne vieille recette.
Les Eagles contre les Falcons.
J'ai les Eagles dans ce match-là, première victoire de cette année pour Jalen Hurts.
Ah oui?
Je pense qu'ils vont commencer sur le bon pied. Surtout que je suis pas convaincu que Atlanta a réglé ses problèmes.
Ben, s'il y a un match où Jalen Hurts peut bien paraître, c'est contre la défensive des Falcons, effectivement. Là, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Faudra pas s'emporter, justement, après un match, puis dire « Wow, Jalen Hurts, on l'avait tellement sous-estimé. » Attention, ça reste les Falcons. Rappelez-vous toujours de l'adversaire. Mais cela dit, j'ai l'impression que l'attaque des Falcons va marquer beaucoup de points contre la tertiaire des Eagles. Je fais pas tellement confiance. Je comprends qu'ils ont ajouté de l'an passé Darius Slay, mais jusqu'à maintenant, les résultats ont été loin d'être concluants. Donc, victoire Falcons pour moi, avec leur arsenal de receveurs.
À Washington, on accueille les Chargers dimanche.
Ouais, ça va se taper dessus, honnêtement, dans ce match-là. Honnêtement, je trouve que c'est un match vraiment intéressant. J'ai Washington, j'ai les Chargers, ouais, je vais commencer ça avec Washington. Écoute, j'aurais pas dit ça l'an passé, mais je viens de choisir en ligne deux équipes de la NFC East pour remporter des matchs. Faut pas oublier à quel point il était mauvais l'an passé, mais écoute, Washington à la maison, Fitzpatrick va en faire assez, ça va être un match qui va selon moi se décider à la toute fin.
Bon, je vais y aller.
Je fais confiance à la défensive de Washington.
Ouais, c'est ça, ça me fait peur. J'y vais avec les Chargers, mais honnêtement, la défensive de Washington, là, qui a fait un gros bond l'an passé, puis ça devrait continuer parce que c'est des gars jeunes sur le front défensif.
Ah, je la vois top 3 facile, là, cette
ouais, c'est ça. Il y a pas de raison de régresser. Je sais pas pourquoi j'y vais avec les Chargers, mais je pense qu'ils vont tout simplement être plus bon qu'on pense en défensive, en fait. Ce serait ça mon raisonnement pour ce match-là. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Justin Herbert, de l'attaque des Chargers, mais qu'on passe par-dessus le fait que ça peut être une excellente défensive aussi que celle des Chargers. Beaucoup de belles munitions en place. À surveiller dans ce match-là, messieurs, les débuts du demi de coin québécois, Benjamin Saint-Just, surveillez le numéro 25. Puis vous allez le voir sur le terrain, là. Faites-vous-en pas. Il a joué contre les numéros 1 tout l'été, que ce soit au camp d'entraînement, que ce soit dans les matchs préparatoires. Ce gars-là vient de se tailler un poste de partant. C'est un exploit phénoménal. Surveillez-le. Un gars de Montréal, un ancien des Spartiates, le numéro 25, Benjamin Saint-Just, demi de coin.
Et un ancien des Loups de Curé-Antoine Labelle au niveau secondaire. Je suis d'accord, c'est un exploit exceptionnel. Dans une excellente défensive, c'est ça ouais. Aussi qu'il faut mentionner. Il se tape pas avec Houston, là. Start avec Washington. C'est très impressionnant.
Pas beaucoup de gimmies cette semaine, mais les 49ers contre les Lions de Détroit, c'en es-tu un?
Niners. Ben, next.
Niners, puis étrangement, c'est pas permis d'avoir du running time dans la NFL, mais c'est peut-être un match où ce que les Lions devraient demander running time.
Seattle Seahawks contre les Colts en Indianapolis.
Ah ben là, je ferai pas plaisir à Jean, mais je vais y aller avec les Seahawks.
Je vais aussi avec les Seahawks parce que les Colts sont un peu handicapés.
Ouais, c'est ça. Là, il y a toutes sortes de problèmes avec les Colts en ce moment. On sait pas trop aussi là comment ça va être l'état de santé de Carson Wentz. Il a été blessé au pied. Même chose pour Quentin Nelson, l'excellent garde, un des gardes les plus fun à voir jouer dans la NFL. Il y a trop de points d'interrogation au niveau de l'attaque en ce moment. On verra pour la suite, mais en ce moment, là, l'état, le bilan médical, disons, me rassure pas trop. Donc, j'y vais avec une victoire des Seahawks et la magie de Russell Wilson.
Les Vikings, Steph, qui s'en vont à Cincinnati.
Ben, ça va être intéressant, comme je le mentionnais tantôt, là, le retour de Joe Burrow pour Cincinnati. On va voir s'il va être vraiment au sommet de son art, parce que, comme je le disais, le fameux torn ACL, la déchirure du ligament croisé antérieur, c'est pas tous les athlètes qui réagissent de la même façon. Je me souviens d'avoir vu un Adrian Peterson complètement dominant après sa blessure, mais il y en a d'autres que ça a pris un an, là, quasiment deux ans même des fois. Donc, faudra voir. Les Vikings, comme je le disais, avec leur défensive améliorée, qui peuvent faire des ravages à l'attaque aussi contre une défensive là, d'un calibre, disons, très moyen comme celle de Cincinnati. Donc, victoire Vikings.
J'ai les victoires des Mauves également là, qui devraient s'imposer. L'attaque, il faut pas oublier, l'attaque de Minnesota va être dangereuse cette année, selon moi.
Les Pats sont favoris par 2 points à domicile pour vaincre les Dolphins.
Là, tu m'aimeras pas, Jean-Nic, parce que je prends les Pats dans ce match-là. J'ai déjà mis beaucoup d'argent en jeu parce que je me suis fait challenger. Tout le monde me dit, ben non, les Pats, ça va prendre du temps, ça gèlera pas. La défensive des Dolphins, c'est trop forte. T'as une carrière recrue. Écoute, moi, je pense que les Pats sont de retour puis ça va leur faire plaisir de montrer ça en premier à la semaine 1 face à des champions face à des rivaux de division au Gillette Stadium. Puis il y a un point aussi qu'on n'a pas parlé, les gars, mais la foule est de retour cette année. Mm-hmm. Ça aussi, ça va faire un changement. Ça a toujours été difficile de gagner en Nouvelle-Angleterre. Ça va l'être encore plus. Victoire des Pats.
J'ai une victoire des Pats aussi. Malheureusement, Jean-Nic, faut pas oublier une chose dans cette rivalité-là, c'est que le match que les Pats échappent, c'est toujours celui à Miami en décembre quand ils s'en vont faire le party. Là. C'est toujours celui-là. Donc, pour l'instant, là, je garde cette potentielle défaite-là.
On a quand même succès aussi en Nouvelle-Angleterre. Pas mal.
Ouais, mais tu sais, écoute, c'est quand même, là, cette semaine, victoire des Pats.
OK. Les Chiefs contre les Browns. Les Browns qui.
Allez, ça, c'est du bonbon, ça.
Si tu veux les voir finir premier, il va falloir qu'ils gagnent des matchs comme ça, genre.
Ben, c'est pour ça que je les mets gagnants dans la première semaine. Ils vont les battre. Ils vont se tenir bien du monde avec une victoire sur la route. vont se fier au jeu au sol. Ça va être le spectacle, encore une fois, Kareem Hunt et évidemment Nick Chubb. Donc, victoire des Browns. Baker va en faire assez. Les Chiefs vont évidemment pousser, vont mettre du point, mais je pense que les Browns vont tenir bon avec cette défensive revampée ou ajoutée. La ligne défensive va sûrement faire une différence dans ce match-là.
Ouais, c'est de valeur. Je m'attendais à un grand cri collectif quand j'allais dire victoire des Browns aussi. Coudon, on penche du même bord cette semaine de ce côté-là. Puis le duel intéressant pour moi, là, ça va être de voir comment va jouer Myles Garrett avec son coéquipier, Jean, comme tu le mentionnais, ouais. Jadeveon Clowney, ouais, contre la ligne à l'attaque vraiment là revampée des Chiefs. C'est pas mal là que ça pourrait se jouer là, dans un match à haut pointage.
Les Broncos s'en vont favoris à New York pour battre les Giants. Est-ce que vous êtes d'accord avec les prévisions du Vegas?
Moi, je suis pas d'accord. J'ai les Giants qui vont gagner dans ce match-là. J'aime pas le fait qu'on sous-estime vraiment la défensive des Giants. Puis surtout à la maison, elle a été très, très bonne l'an dernier. Je m'attends encore à une bonne performance. Victoire des G-Men pour commencer la saison.
On va y aller avec une victoire des Broncos. Tu sais, je suis pas nécessairement, comme je vous l'ai dit tantôt, ultra confiant en Teddy Bridgewater. Ouais, écoute, j'ai quasiment le goût de mettre les Giants, mais je vais me fier à mon instinct initial d'y aller avec les Broncos, leur défensive qui va aller chercher ce match-là en maîtrisant l'attaque des Giants.
Ils ont des retours.
Parce que tu sais que c'est pas l'attaque qui va aller chercher le match, hein?
Ouais, 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 c'est ça. Là, ça risque d'être difficile du côté offensif. Je m'attends pas à un match avec énormément de points entre ces deux équipes-là.
Les Packers qui s'en vont en Nouvelle-Orléans, mais en fait, ils vont jouer à l'étranger, mais ça sera pas...
À Jacksonville, hein, si je me trompe pas.
Oui, exact. Bon, j'ai les Packers dans ce match-là.
Ouais, c'est ça. Peu importe le lieu, ça aurait été à Anchorage, ils auraient gagné pareil ce match-là. Je pense que les Saints vont connaître une régression quand même importante là, cette saison. Je m'attends mais pas nécessairement.
Je suis quand même curieux de voir Jameis Winston.
Oui, oui, oui,
il va
très
faire
curieux.
Avec les Saints.
J'aime pas son groupe de receveurs. C'est sûr que Callaway a montré des super belles choses en match pré-saison. Là. Le match où Winston s'est établi comme partant, c'est vraiment des gros, gros jeux avec son receveur Callaway qui ont fait la différence. Donc, ça, c'était surveillé. Mais quand même, là, je vois pas comment ils peuvent passer les Packers cette semaine.
Les Bears qui s'en vont à Los Angeles pour affronter les Rams de Matt Stafford, sa première partie avec sa nouvelle équipe.
Un match de dimanche soir aussi, d'ailleurs de grande écoute maintenant. Puis faut pas oublier que c'est le nouveau stade qui a pas été tant que ça inauguré l'an passé. Là, ça va être plein. Moi, je m'attends à ce que les Rams ne fassent qu'une bouchée des Bears. Je m'attends à un match où ce que les Rams vont gagner par au moins 10 points. Victoire facile de Matt Stafford à ses débuts.
Ça se pourrait même qu'au quatrième quart, quand le match va être hors de portée, on voit un brin Justin Field en
action. Oh, wow!
Pas pour le reste de la saison. Je suis pas en train de dire qu'ils vont bencher Dalton après trois quarts, là, mais mettons que le match est 20 points en faveur des Rams, ça pourrait arriver. Là. C'est un scénario qui est envisageable pour ce match-ci.
On finit la semaine avec les Ravens et les Raiders.
Un bon match quand même, je trouve, au Monday Night. Est-ce que la défensive de Vegas est meilleure? Est-ce que c'est... Moi, j'ai des gros doutes. J'ai les Ravens qui vont remporter ce match-là en commençant la saison à Vegas. Mais ça va être intéressant, ça aussi. Là. On parlait de Vegas, la foule pour la première fois, le nouveau Black Hole. J'ai hâte de voir, ça va être quoi l'ambiance à Vegas, ça va être intéressant à surveiller, mais je pense que Lamar Jackson et sa troupe vont en faire assez pour remporter ce match.
C'est ce que j'allais mentionner, parce que l'an passé, oui, les Raiders ont ouvert leur stade à Vegas, mais il n'y avait pas un chat en place. Là. Toute l'année, il n'y a pas eu un spectateur, donc une première, là, ça va être le fun de voir ça. Est-ce qu'on peut recréer l'ambiance du Black Hole d'Oakland à Vegas? Probablement qu'il y a bien des gens d'Oakland qui vont faire la route aussi. Victoire des Ravens, là, malgré l'ambiance survoltée en faveur des Raiders.
OK, merci les gars, merci. J'espère que les gens à la maison, vous avez pris ça en note et que vous êtes prêts pour la première semaine. On va tout ressasser ça la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Mais avant de se laisser, après la pause, on va faire notre chronique au bar. Restez là. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure.
show. I got a hangover.
On est de retour à la zone payante et c'est la chronique au bar avec Jean Carrier et Stéphane Cadorette qui vont punir les gens qui ont eu des mauvaises semaines. Puis après ça, je vais vous donner ma prédiction pour le Super Bowl. Jean, qui t'envoie au bar cette semaine?
Je suis gentil cette semaine. Je vais envoyer TJ Watt et les Steelers au bar parce que là, il y a une petite chicane. TJ Watt veut un nouveau contrat, c'est pas réglé encore. Normalement, on parle que TJ Watt pourrait peut-être manquer la première semaine. C'est pas dans l'habitude des Steelers de faire jouer un joueur qui a pas pratiqué dans la semaine. Donc, faut surveiller ça un petit peu. Tout gars, une petite punition bien gentille. Je les envoie au bar ensemble. Je les force à boire quand même quelque chose de très bon. Un petit Brugal extra vieillot, petit rum and coke, et les choses vont se régler rapidement. Donc, c'est ma première petite chronique au bar. On commence lentement, mais il y a certainement d'autres candidats qui vont se pointer le nez assez rapidement, qui vont être plus spectaculaires.
Steph?
De mon côté, est-ce que vous connaissez, messieurs, un dénommé Osa Odegizua?
Présente-nous-le, s'il te plaît.
C'est exotique, hein, quand même, comme premier bar de l'année. Mais c'est un plaqueur recru, un choix de troisième ronde des Cowboys de Dallas en action jeudi soir contre les Bucks de Tampa Bay. Puis évidemment, avant son premier match dans la NFL, parce qu'il a connu quand même un bon camp, il faut le dire, là, parce qu'on s'apprête à rire de lui, mais il a connu un bon camp. Il risque de voir de l'action pas mal. Puis on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Tom Brady. Puis sa réponse, ben ça a été... Tu sais, Tom Brady, il est vieux. Il a ralenti pas mal. Il est beaucoup moins mobile. Là, qu'il est pas très mobile. Donc, je m'en fais pas trop avec ça. Bref, la déclaration à ne pas faire avant un match contre Tom Brady, là, c'est pas mal ça que tu pourras enseigner à tes joueurs recrues dans la NFL. Quoi ne pas dire? Tu découpes la clip. Tu dis, voici ce qu'on ne dit pas avant un match contre Tom Brady, ou n'importe qui d'ailleurs, mais particulièrement contre Brady, qui se motive avec un rien. Là. Donc, moi, j'ai trouvé que ça faisait petit gars pas mal là, comme déclaration par rapport à un vétéran de la trempe de Brady. Donc, je le condamne au bar, oui, mais à boire du crème soda. Donc, pas d'alcool, pas rien. Faut vraiment là que tu te fasses un petit drink de petit gars, puis tu réfléchis, c'est tout.
Merci les gars et merci pour cette émission et je vais me lancer dans ma prédiction du Super Bowl moi aussi. Je pense que oui. Tampa Bay va se rendre encore au Super Bowl à mon grand dam. Mais que les Ravens avec Lamar Jackson
qui va, wow.
Ouais, je pense que il va faire mentir son titre de choker en chef en série et il va réussir à battre Patrick Mahomes pour se rendre au Super Bowl. Donc, ce sera les Ravens contre Tampa Bay.
Intéressant, mon hostis.
Comment?
Qui remporte le Super Bowl?
Ça va être Tampa Bay.
Oh boy.
Je suis désolé.
On a 6 équipes différentes au Super Bowl. C'est intéressant quand même.
Oui, très, très intéressant.
OK, ben on va voir. De toute façon, je pense que nos prédictions à ce stade-ci sont aussi bonnes que celles des gens qui nous écoutent à la maison. On vous invite à nous les faire parvenir, si vous voulez aussi. C'est quoi notre adresse de courriel? Donc, tu l'avais, Steph, la dernière fois?
Oh, je l'ai pas là en tête. Il faudrait que je cherche. Là,
mais... Envoyez-le à studio@cube.radio. Ça, on va le recevoir, c'est sûr. Donc, studio@cube.radio. Envoyez-nous vos prédictions pour l'année, puis on pourra en discuter lors de la prochaine émission. Merci, les gars, d'avoir été là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bon match, bon dimanche, bonne première semaine de la NFL aussi à vous, les auditeurs qui nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.